Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
Salut à tous, soyez les bienvenus. Intégral Foot spécial Euro 2024. Cet après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est l'événement de la journée. RMC lance la compétition qui démarrera le 14 juin prochain en Allemagne. Et on lance cette compète avec le coach Corbis. Salut Roland.
Salut les amis.
Ça va Roland, t'es prêt pour ton Euro?
Bah oui, écoute, on se prépare avec beaucoup de précision. Mais on a le temps, on est comme moi de l'Ouest.
Oui,
mais ça passe tellement vite.
Exactement. Et tu verras qu'on a un programme chargé. L'équipe de France au programme, évidemment, elle fait partie des favoris, mais est-elle la grande favorite de l'Euro 2024? On en parlera dans un instant avec Jeannot Rességuier qui est déjà avec nous. Salut Jeannot.
Salut tout le monde.
Jeannot qui est là, supporter de l'équipe de France. On vous attend également au 32-16. On va prendre le temps cet après-midi aussi de s'intéresser à nos voisins grâce à notre rôle de dame à 15h25. La peur du vide pour l'Italie qui disputera une finale demain contre l'Ukraine pour se qualifier. À 15h30, focus sur les Anglais qui semblent plus forts que jamais. Et puis des invités dans cette spéciale Euro 2024. 15h45, Teddy Thomas, milieu de terrain de Reims, international maltais qui a affronté les Anglais vendredi. Et à 16h45, Loïs Openda, l'avant-centre de la Belgique et ancien joueur du RC Lens. C'est parti pour l'Intégral Foot spécial Euro 2024. 16 nations sont désormais qualifiées pour l'Euro. Donc 2024 en juin prochain sera la 17e édition de l'Euro. En plus de l'Allemagne, pays organisateur, je vous rappelle, les gars, les qualifiés: Espagne, Écosse, Pays-Bas, Angleterre, Turquie, Albanie, Autriche, Belgique, Hongrie, Danemark, Roumanie, Suisse, Portugal, Slovaquie et bien sûr l'équipe de France qui a assuré un statut de tête de série hier avec cette victoire.
C'est officiel.
Énorme victoire. 14-0 contre Gibraltar. Le tirage au sort, Jeannot le rappelle, le 2 décembre.
Samedi dans 15 jours. Hambourg, à partir de 18h.
Pour le moment, je dis bien pour le moment, en espérant qu'il n'y ait pas de blague demain pour nos amis italiens. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de surprise.
Ah, sur un euro à 24, heureusement.
Surtout le fait que si l'Italie se qualifie, l'Italie sera un chapeau 4. Donc adversaire potentiel de l'équipe.
Voilà, ça c'est important. Faut peut-être mieux que l'Ukraine se qualifie alors, peut-être.
Bon.
On peut pas dire ça. Émission spéciale, d'ailleurs, je l'annonce tout de suite. Le 2 décembre, émission spéciale, 17h-20h, spécial tirage au sort de l'Euro.
Oui, donc, sur RMC et chez nos confrères de BFM.
Et voilà, on va faire de monter la sauce pour l'Euro 2024. On voulait parler de l'équipe de France, forcément, pour démarrer. Sommes-nous les grands favoris de cet Euro, Jeannot? Est-ce que dans le groupe, déjà, on se considère comme favori de la compète? Est-ce que tu as des échos là-dessus? Est-ce qu'on sait?
On a posé la question à Didier Deschamps lors de ce rassemblement. Lui, l'objectif, c'était d'être tête de série parce que il voulait pas se retrouver comme le dernier championnat d'Europe face à l'Allemagne et face au Portugal. Bon, là les adversaires potentiels c'est pour l'instant, au moment où on parle, c'est Autriche, Turquie, Hongrie, Roumanie, Albanie et Belgique par exemple. Donc ça c'est le chapeau 2. Ça veut dire que pour l'équipe de France, ils sont vice-champions du monde. Ils savent qu'ils ont manqué leur dernier championnat d'Europe mais s'ils gagnent en Grèce mardi et sans s'occuper de ce que va faire l'Argentine contre le Brésil, ils sont numéro un mondial, les finalistes du dernier championnat du monde. Ouais. Donc il est évident, ils savent que de toute façon, ils feront partie des favoris. Et c'est dans ce sens-là aussi que Didier Deschamps va préparer ce championnat d'Europe pour l'équipe de France.
Roland, on a préparé l'émission ensemble. Pour toi, nous ne sommes pas les uniques favoris de cette compète. Hein. Mets l'Angleterre au même niveau que nous.
Absolument. Donc on se rappelle aussi... Qu'est-ce qu'il a fallu d'un petit truc pour les avoir battus, ce pénalty raté par Kane.
À la Coupe du Monde, oui.
Donc je les vois encore jouer, je les trouve redoutables. Quand je vois le potentiel qu'il peut y avoir dans ces joueurs, c'est vrai que notre ami Julien, il nous parle toujours du sélectionneur.
Il sera avec tout à l'heure.
Le seul problème qu'on pourrait voir là, c'est le problème du sélectionneur. Mais bon, on va pas être trop méchant avec lui.
Après, perdons pas de vue que même si c'est un championnat d'Europe qui a été élargi en 2016, au niveau des participants avec 24 nations, c'est un championnat d'Europe qui est beaucoup plus relevé qu'une Coupe du Monde. Faut pas le perdre de vue.
Gagner l'Euro, c'est toujours compliqué.
Gagner l'Euro, c'est toujours très compliqué.
Et beaucoup moins compliqué que le dernier championnat d'Europe là, avec plusieurs endroits.
Oui, oui.
on ne savait pas où on était, on ne savait pas les voyages qu'on faisait, on ne savait pas si on jouait à domicile, on ne savait pas si on jouait à l'extérieur.
Ah, il sera très éco-responsable ce championnat d'Europe, puisque c'est par zone géographique et que tout le monde normalement devrait prendre le train pour se déplacer. D'ailleurs, l'équipe de France devrait prendre le train pour le match de mars contre l'Allemagne, le match à Lyon.
À Lyon,
Donc voilà, ça veut dire aussi que on va tenir compte un petit peu de ça, dans la mesure où très certainement ça va être le dernier Euro organisé dans un seul et unique pays, c'est-à-dire un pays à fort potentiel économique et qui a les stades pour pouvoir accueillir ce genre de compétition, parce qu'après ça sera un petit peu plus compliqué.
Pour parler de notre équipe de France, est-ce que vous pensez tous les deux qu'on est plus fort qu'il y a un an au moment de la Coupe du Monde? Est-ce que cette équipe de France est plus forte, Roland? On a peut-être un peu plus de vécu, on a plus de certitude dans le jeu, on a fait une campagne de qualif qui a été excellente. Est-ce que tu le penses? On est meilleure attaque et meilleure défense de la phase de qualification.
Peut-être un petit peu. Bon, n'oublions pas quand même qu'on se retrouvait avec le problème, entre guillemets, Benzema, qui était dans une forme époustouflante. Et puis finalement, bon, une blessure, un malentendu, et ça a finalement été très compliqué. Mais oui, je pense que ça serait logique.
Et puis il y avait des doutes. La charnière centrale, souviens-toi, le milieu de terrain, on se posait beaucoup de questions à l'approche de cette Coupe du Monde.
Après, ils n'ont encaissé qu'un seul but, mais ça reste quand même, selon moi, le point d'interrogation, la défense de l'équipe de France, et notamment la charnière, parce que il a tenté, en tout cas Didier Deschamps, d'installer la paire Konaté ou Upamecano.
Pour toi, il n'y a pas de hiérarchie aujourd'hui?
Non, aujourd'hui non, parce que ce sont des joueurs qui se blessent souvent. Ouais. Je pense à Ibou Konaté, le joueur de Liverpool. Je peux citer aussi Upamecano. Et après, derrière, Saliba, Todibo,
Lucas Hernandez.
Lucas Hernandez qui peut se tenir ce poste-là. Qu'est-ce qui va se passer du retour de Kimpembe à la compétition? Donc voilà, non, mais il part de loin, mais c'est quand même quelqu'un qui fait partie des champions du monde de 2018. Et n'oublions pas que Didier Deschamps a toujours de la mémoire quand il s'agit d'appeler ou de rappeler un joueur. Il a des priorités, en tout cas, pour lui. Donc, ça veut dire aujourd'hui que le potentiel au milieu de terrain, il est là. Le potentiel offensif, il est bien présent. On sent que ça se rééquilibre, en tout cas, on l'a vu hier, a confirmé en Grèce, ça se rééquilibre où la France avait plus l'habitude de jouer côté gauche avec Kylian Mbappé. Là, on sent que ça a joué beaucoup plus côté droit.
On a un latéral offensif.
Avec des choses intéressantes, avec notamment Klose qui se positionne de plus en plus dans ce rôle-là. Après, moi, je reste très prudent sur la charnière. Voilà, sur la capacité pour Didier Deschamps de pouvoir aligner une charnière solide, costaud, comme ça avait été le cas notamment à la Coupe du Monde 2018 ou à la Coupe du Monde 2022.
On peut considérer qu'il n'y a pas qu'un seul duo.
Non.
On peut considérer qu'il y a quand même une génération avec une dizaine d'arrière. Je dis bien une dizaine.
C'est
une dizaine d'arrière centraux. C'est tout simplement impressionnant. Avec en plus, dans les idées de Didier, celui qui peut jouer arrière central et en même temps arrière latéral. Pavard, Koundé, Hernandez de l'autre côté, même si Théo est beaucoup plus pour moi arrière latéral que Lucas. Mais bon, ça fait quand même un potentiel énorme.
Roland, ta charnière idéale, c'est laquelle, toi? Celle de la Coupe du Monde? Konaté et Upamecano?
Pas sûr. Je trouve très bon ce Todibo.
Ouais.
Et après, trouver vraiment celui qui... Parce que moi, je le mettrais dans chacun ses goûts en numéro 1. Hein, donc... Et avec en plus une
marge. Tu mettrais Todibo numéro 1 de tes défenseurs centraux?
Ben oui, donc c'est celui que je préfère. C'est une question de goût. Mmh. Et en plus de ça, je lui vois encore une marge de progression intéressante. Mais sa marge de progression, elle se passe à Nice, elle se passe aussi avec son coéquipier.
Dante.
Et oui. Et donc là, pour faire un duo meilleur que Dante et Todibo, mais Dante, on peut pas le sélectionner dans notre équipe.
Ça va être compliqué.
Donc, si on considère que bon, mais j'ai peut-être pas mauvais goût avec Todibo, qui serait le Dante de pour Todibo dans les autres arrières centraux?
Un bon lanceur comme ça,
pas facile.
Pas facile, mais je suis surpris. Je pensais que tu mettrais Konaté devant.
Alors, on a vu Todibo et Saliba tous les deux en Allemagne. Mmh. Ça a été un peu compliqué pour eux.
On sent que Saliba a pas une grosse cote dans cette équipe de France quand même, Jeannot.
Pas une grosse cote. Après, le problème pour Saliba, c'est que là, il a joué, il est rentré neuf avec le traditionnel une dizaine de minutes à la place d'Upamecano, centre gauche. Saliba, il est plus à l'aise centre droit. Ouais. Mais centre droit, il y a Todibo. Donc voilà, et il y a Konaté. Donc ce qui veut dire que ça complique un peu plus les choix pour le sélectionneur. Mais Saliba fait partie des prétendants. Disasi n'a pas dit son dernier mot non plus. Donc
c'est vrai.
Voilà, ça veut dire aussi que comme l'a dit coach Corbis, il y a pléthore de talents à ces postes-là. Il suffit maintenant de trouver la bonne association ou aller, on va dire, les deux, trois bonnes associations de joueurs qui seront intégrés dans la liste des 23, puisqu'on parle de 23 voilà. joueurs pour l'Euro, même si il y a encore une possibilité que l'UEFA se positionne lors du prochain tirage au sort, okay. le 2 décembre prochain, mais au moment où on se parle, c'est une liste de 23, ouais. dont 3 gardiens.
Et je rappelle les dates de la compétition, l'Euro 2024, 14 juin, 14 juillet, ça sera avant à 12 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui sera à suivre le 26 juillet sur RMC, radio officielle de l'événement. 15h17, vous écoutez l'intégrale foot spécial Euro 2024. Donnons la parole à un supporter de l'équipe de France, Sam, qui a composé le 32-16. Salut Sam.
Bonjour messieurs.
Sam, est-ce qu'on est les grands favoris de cet Euro qui arrive dans 7 mois?
Oui, je pense qu'à un moment, il faut quand même aussi dire un petit peu les choses, quoi. On finit finaliste de la Coupe du Monde avec un effectif qui est quand même relativement jeune malgré tout, donc qui doit capitaliser sur cette expérience. On a toutes les lignes des joueurs de talent. On a de la profondeur de banc, on a même de la profondeur hors banc, hors sélection au-delà des 23. S'il y a des blessures, on a de quoi faire. Donc je pense que c'est aussi important de pas faire les petits bras et d'admettre quand on est favori. Il faudra se méfier éventuellement de l'Angleterre peut-être, mais c'est vrai que surtout les autres nations sont en reconstruction. L'Allemagne, l'Espagne, c'est encore très jeune.
Attention à l'Allemagne qui organise.
Ah, ça, Roland, c'est ton obsession personnelle. Ah ouais. Nous, on a du mal à te croire, à te suivre.
C'est générationnel, ça. C'est un traumatisme générationnel, ça.
On en parlera avec Polo à 16h, mais Roland, il a un traumatisme allemand.
Problème. De tout petit, c'est mon grand-père qui m'a mis ça dans la tête.
Voilà.
Comme quoi, un Allemand, c'était plus que coriace.
Je rappelle d'ailleurs, Jeannot, que si jamais on gagne en Grèce mardi, on sera assuré de terminer première nation au classement FIFA. Oui, ça, c'est pas anecdotique.
C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire que ça donne un objectif final à Didier Deschamps et à son groupe pour ses éliminatoires. C'est-à-dire de faire aussi bien qu'en 2004, donc les éliminatoires pour l'Euro 2004 où ils avaient fini à l'époque, souvenez-vous, avec Jacques Santini invaincu.
L'effet Jérôme Breton.
Ouais, c'est peut-être ça. Et après, de se retrouver tête de série, ça c'était l'objectif, de prendre 3 points sur les 2 derniers matchs. Et là, sans encore une fois se soucier de ce qui peut se passer entre l'Argentine et le Brésil, tu gagnes en Grèce, déjà tu finis avec que des victoires, et tu te retrouves numéro 1 mondial. C'est anecdotique, mais ça marque encore quand un même. Peu plus les esprits. Ouais.
Jeannot, allons voir ce qui se passe au Quintet. C'est le rendez-vous du dimanche après-midi sur RMC. C'est à Vincennes que ça se passe. C'est avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Eh oui, salut Benoît, salut à tous. Effectivement, c'est le Quintet avec Hussard du Landré, le numéro 9, qui a pris nettement l'avantage dans cette phase finale. Il va s'imposer brillamment dans cette épreuve devant le numéro 18, Hooker Berry, à 3e place pour le numéro 7, Hokkaido Giel. Une superbe arrivée dans cette épreuve avec une victoire surprise pour ce numéro 9, Hussard du Landré, qui a fait nettement la différence dans la phase finale. Il domine donc le numéro 18, Hooker Berry, qui est le gagnant du dernier prix d'Amérique. La 3e place pour le numéro 7, Hokkaido Giel. Il faut rappeler quand même que cette course est justement la première course qualificative au prix d'Amérique. Les 3 premiers sont donc qualifié pour le prix d'Amérique qui a lieu le 28 janvier prochain à Vincennes, donc le 9 devant le 18, le 7, et ensuite la 4e position pour le numéro 17 Ampiam et DSM, et la 5e place pour un gros outsider, le numéro 11 Elvis Duvallon. Je vais les récapituler, c'est arrivé provisoire du Quintet, donc 9, 18, 7, 17 et donc le numéro 11.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Je remercie Sam qui est venu participer au débat au 32-16. Je remercie Jeannot Rességuier, la voix du foot, la voix de l'équipe de France. Jeannot, rendez-vous le 2 décembre. Hein, tirage au sort de cette phase finale de l'Euro.
Et puis tout à l'heure à 17h. Hein,
tout à l'heure à 17h. En Grèce mardi.
Et les 10 ans du fameux France-Ukraine. Ah, ouais. Match fondateur de l'ère Didier Deschamps.
Mamadou Sakho.
Oui.
Eh ouais, tu t'en souviens encore, Jeannot.
Légendaire.
Eh ouais, c'était dingue. Merci Jeannot. À tout à l'heure sur RMC. Coach, tu restes avec moi. Dans un instant, on parle des adversaires des Bleus. On va parler de l'Italie qui a une finale à jouer demain face à l'Ukraine. S'il y a défaite, l'Italie sera privée d'euro. Et puis on aura un invité, Teddy Thomas, international maltais, joueur du Stade de Reims, qui a affronté justement l'Angleterre vendredi. Il nous dira ce qu'il a pensé de la sélection anglaise. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
Jusqu'à 17h avec le grand et l'unique Coach Courbis. Il est 15h25, vous écoutez RMC. On consacre 2 heures de cet après-midi à l'Euro 2024. On se projette sur la compétition qui nous passionnera dans 7 mois, le 14 juin, le coup d'envoi de l'Euro 2024. On parlera dans un quart d'heure des autres favoris. On a parlé de l'équipe de France, on parlera des Anglais avec Julien Laurence. Dans un instant, on accueillera un invité, Teddy Thomas, le joueur du Stade de Reims, international maltais, qui a joué d'ailleurs à Wembley vendredi. Mais accueillons la première drôle de dame de l'après-midi, Roland, Johan Crochet, qui est avec nous, drôle de dame italienne. Salut Johan.
Salut Benoît, bonjour à toutes et à tous.
Salut Johan.
Johan, désolé, mais contrairement aux autres grandes nations, l'Italie n'est toujours pas qualifiée pour l'Euro. Il y a cette finale à disputer demain soir à Leverkusen contre l'Ukraine. Un nul suffit aux Italiens, mais on sait que les matchs couperaient comme ça.
On voulait les mettre en favoris, puis après on a réfléchi, on dit, mais ils ne sont même pas qualifiés.
Ouais, on voulait les mettre favoris parce qu'ils sont tenants du titre, on le rappelle, oui, c'est eux qui avaient remporté le dernier Euro. Quelle est l'humeur en Italie? Est-ce qu'on panique avant ce match couperet demain soir alors?
Bon, ce qui est clair, c'est que ça va un peu mieux que vendredi matin, parce qu'il y a eu le match contre la Macédoine du Nord avec une belle victoire 5-2, même s'il y a quelques points ou de crispation, hein, les deux buts encaissés, alors que la Macédoine du Nord n'a absolument rien créé du match. C'est un premier point de crispation. Le deuxième, c'est le pénalty raté par Jorginho, au point où, je ne vais pas dire que 80% du discours du match de lundi, mais en tout cas en amont de ce match, on parle énormément en Italie du prochain tireur de pénalty, parce que Jorginho a raté celui-là, il avait raté les deux précédents, plus raté également son tir au but lors de la finale de l'Euro contre l'Angleterre. Donc ça fait quand même 4 tentatives consécutives ratées. Ouais. Donc on imagine quand même que s'il y a un pénalty lundi soir, ce ne sera pas Jorginho qui va le tirer. Il faut même l'espérer maintenant, au point où on en est.
C'est fou de se dire ça aujourd'hui.
Non, mais c'est clair, parce que ça a été un tireur majeur.
Un des meilleurs tireurs du monde.
Non, puis après, c'est ça, sauf que maintenant, tout le monde a compris son geste, en fait.
Si tu as une formule traditionnelle et tout, mais avec sa formule spéciale, en plus, tu les rates, et ça va, c'est bon. Ouais.
Non, mais c'est un peu l'histoire des Panenka. Quand tu fais un geste un peu différent de tout le reste, là, c'est pas un geste technique, c'est juste une course d'élan qui est très différente. Bah, forcément, les critiques sont plus féroces. Bref, ça c'est un peu le discours un peu plus superficiel, mais il y a un peu plus de confiance, mais il y a aussi le fait de se rappeler que dans les matchs décisifs récemment, l'Italie a eu des difficultés. Et sans même aller jusqu'au barrage de la Coupe du Monde 2022, il y avait eu avant des matchs décisifs qu'il fallait gagner pour ne pas se retrouver en position de barrage, ils n'avaient pas réussi. Ouais. Donc on n'est pas dans la panique totale comme vous pouvez presque l'être vendredi matin. Par contre, on fait très attention à ce qui peut se passer lundi. Oui.
On rappelle que le sélectionneur, c'est Luciano Spalletti, désormais. Ouais. Quel est le niveau général de cette équipe? Est-ce que ça reste une grande nation du foot européen? Est-ce que s'il y a qualification, l'Italie sera à prendre au sérieux, à ton avis, Johan?
Ah, en fait, il y a deux sélections qui vont moins bien en Europe, c'est l'Italie et l'Allemagne. Oui. Sauf que si ces deux... Alors, l'Allemagne, c'est déjà fait, ils sont qualifiés. Mmh. Mais si l'Italie est qualifiée, c'est jamais deux nations que tu as le droit de prendre à la légère. Tout simplement parce que ils se sont donné l'autorisation à travers leur passé d'avoir cette réputation d'équipe très ennuyeuse, on va dire comme ça, dans les grandes compétitions. Et donc, tu n'as pas le droit de les prendre à la légère. Après,
est-ce que t'as le talent sportif pour être un outsider? C'est ça la vraie question.
Mais tu sais, Benoît, qui avait mis l'Italie dans les favoris, ou même dans les outsiders, lors du dernier Euro? Pas grand monde. Et évidemment qu'on n'a plus les individualités d'une époque où on avait les Totti, Del Piero, Maldini et j'en passe. Enfin, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, et tout le monde en fait. On avait, si tu prends l'équipe de 2006 et l'équipe d'aujourd'hui, il y a, c'est même pas qu'il y a un gap, c'est qu'il y a quatre gaps d'écart entre ces deux équipes-là.
Chiesa.
Ouais, non, mais il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas de stars. Mais en fait, c'est pas grave de pas avoir de stars. Dans le sens où, on le voit, les Anglais, ils ont plein de stars. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont gagné, les Anglais? Rien.
Ah non.
Donc le problème n'est pas d'avoir de stars ou pas stars. C'est pas comme ça qu'il faut juger l'Italie. C'est sur sa capacité à créer un collectif qui sera suffisamment fort pour pallier cette absence de stars. Ce qu'avait réussi Roberto Mancini, et sincèrement, je pense que si l'Italie se qualifie avec un entraîneur que moi j'estime énormément, Luciano Spalletti, il faudra prendre en compte cette équipe-là, pas comme favori, évidemment pas, parce qu'il y a des équipes qui sont plus armées que l'Italie. Mais je peux vous assurer que si l'Italie va à l'Euro, rencontrer l'Italie, ce sera pas une bonne nouvelle.
Tu vois, on parlera de l'Allemagne à 16h avec Paulo Breitner. Roland reste confiant pour l'Allemagne qui met l'Allemagne dans les favoris au même titre que la France et l'Angleterre. T'as pas ce sentiment-là avec l'Italie, Roland? Tu as moins confiance
en l'Italie tout à l'heure. Et ils sont pas encore qualifiés.
Oui. Non, mais s'ils se qualifient, c'est un adversaire que tu redouteras pour l'équipe de France.
On verra un petit peu. Ben oui, comme vient de le dire Yoann, c'est sûr que l'Italie, ça reste l'Italie. Il y aura toujours une ossature de 7 à 8 joueurs très importants et très talentueux et très intéressants. Donc ça fera obligatoirement avec un bon entraîneur, c'est-à-dire le sélectionneur d'aujourd'hui, ben, qui tirera le maximum de cette équipe-là. Donc ça sera pas un cadeau de le rencontrer. Mais tu me poses la question si je préfère rencontrer l'Italie ou l'Angleterre quand je vois cette quinzaine de joueurs anglais et que je lis la liste et toutes les lignes et c'est pas le cas de toutes les équipes, donc je mets quand même les Anglais un petit peu au-dessus.
Et il faut prendre les matchs les uns après les autres, quand même le disent les footballeurs, demain, 20h45.
Et c'est ce que disait Benoît, d'ailleurs, c'est ce que disait Barella tout à l'heure, là, il expliquait que, évidemment, que l'Italie a deux résultats sur trois possibles contre l'Ukraine, puisqu'ils sont égalité de points, mais comme ils ont gagné le match aller, un match nul les qualifierait également. Mais lui, ce qu'il dit, et il a raison, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de... Cette équipe n'a pas de zone de tranquillité, de sécurité. Donc en fait, tu ne peux à aucun moment entrer sur le terrain en te disant qu'un match nul suffit.
Ça, c'est sûr.
Il faut absolument entrer comme ils sont entrés face à la Macédoine du Nord, avec un pressing, avec la volonté d'aller marquer des buts, parce qu'ils ont les qualités pour gêner cette équipe d'Ukraine, parce qu'on l'a vu au match aller, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Ils ont bien changé, ces Italiens, avant, c'est leur spécialité.
Ouais, c'est ça, mais lors du match aller, on l'a vu, ils ont mis les Ukrainiens sous l'eau pendant une bonne partie du match, et ça leur a permis de gagner ce match-là, donc c'est ce qu'il faut absolument faire dès demain.
Ouais, mais tu ne peux pas non plus négliger le fait que, contrairement aux Ukrainiens, eux, ils sont obligés de gagner. Donc c'est pas tout à fait pareil, et même pas pareil du tout. Donc pour moi, ça doit faciliter la qualification des Italiens.
Et ben vous savez quoi, la transition est toute trouvée. On suivra demain ce Ukraine-Italie 20h45, c'est à Leverkusen parce que l'Ukraine ne peut pas recevoir de match sur son sol. On suivra le match à 20h45 dans l'after, évidemment dans Génération After, match crucial pour les Italiens et pour les Ukrainiens. On va en parler avec un homme qui a croisé ces deux nations, qui a également croisé l'Angleterre. On remercie Johan Crochet. Johan, d'ailleurs, si tu veux écouter, c'est intéressant parce bien que entendu. Même si Malte a terminé dernier de cette poule, eh bien, Malte a affronté toutes ses équipes et on va prendre justement le sentiment d'un joueur qu'on aime beaucoup, un joueur du Stade de Reims. Teddy Thomas qui est en direct avec nous dans l'intégrale foot spécial Euro 2024. Salut Teddy.
Salut.
Merci Teddy d'être avec nous. L'événement pour toi, c'était vendredi. Tu disputais ce match de qualification pour l'Euro 2024. C'est toujours compliqué pour Malte. En plus, un déplacement à Wembley pour affronter les Anglais. Score final 2-0 et un match plutôt respectable de votre part. Vous avez tenu tête aux Anglais. En tout cas, vous n'avez pas pris une raclée contre cette belle équipe d'Angleterre, Teddy.
Ouais, c'est un peu ça. C'est jamais facile pour une petite nation comme Malte d'accrocher certains résultats. Surtout, je pense que cette année, on n'a pas été chanceux au vu de la poule qu'on a eue. Donc, ça a été difficile pour nous de prendre des points. Et en tout cas, on a su finir, je dirais pas en beauté, mais parce qu'on a perdu. Mais voilà, on a su finir avec les honneurs parce que voilà, faire un match je dirais où on a réussi à mettre en difficulté quand même cette équipe de l'Angleterre, surtout en première mi-temps, et du coup je pense que voilà, on finit cette phase de groupe avec je dirais la tête haute, parce que 2-0 à Wembley, voilà, même si ça reste une grande expérience, c'est jamais facile.
Ouais, je rappelle votre groupe qui était entre guillemets le groupe le plus relevé: l'Angleterre, l'Italie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord qui a déjà disputé de grandes compétitions internationales. Difficile pour Malte qui termine avec 8 défaites en 8 matchs. Ce qui nous intéresse aussi, Teddy, c'est que on se projette un peu, nous, sur l'Euro, que tu nous dises un peu ton ressenti par rapport aux adversaires que tu as croisés. Comment tu as trouvé cette équipe anglaise? Il y avait quelques absents, hein. Saka n'était pas là, Bellingham non plus. Il y avait tout de même de grands noms sur le papier. Harry Kane était là, d'ailleurs, il a marqué. Qu'est-ce que tu as pensé des Anglais, toi, vendredi soir?
Ouais, franchement, c'est une équipe avec une certaine mentalité, c'est-à-dire qui, on va dire, j'ai l'impression qu'ils sont jamais satisfaits du score. Donc même après 1-0, ils veulent mettre le 2-0, après le 2-0, ils veulent mettre le 3-0. Et c'est une équipe hyper offensive avec beaucoup de qualités individuelles. Ça, tout le monde est au courant. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, ouais, c'est leur mentalité de offensive. Ils veulent tout le temps attaquer, tout le temps. Même contre une équipe entre guillemets plus faible comme nous de Malte, ouais. Ils prenaient le match très au sérieux et s'ils pouvaient nous en mettre 8, ils nous en auraient mis 8. Donc c'est comme une forme de respect, mais en tout cas, voilà, c'est leur mentalité.
Ouais, ça va vite. Hein. Il y avait Foden, Rashford, Harry Kane au coup d'envoi. Donc forcément, c'est délicat à gérer. On va rappeler ton histoire en sélection parce qu'on te connaît bien. On te découvre en Ligue 1 avec bonheur parce que tu es extrêmement performant avec Reims. Vous êtes cinquième de Ligue 1. Ton histoire est marrante avec la sélection maltaise parce que tu es international depuis 2020. Tu ne connaissais même pas tes origines à l'époque. Tu jouais au Red Star. Vous étiez promu en Ligue 2. On te contacte. Tu n'y crois pas trop et finalement, ça se fait. Et raconte-nous surtout tes premiers pas, parce que tu débarques, tu parles pas très bien anglais, et c'est compliqué au début de te faire comprendre dans le groupe, Teddy.
Ouais, c'est exactement ça. On va dire que ça a pu se faire, et une fois arrivé, j'appréhendais un peu cette intégration, parce que c'est vrai que je ne parle pas la langue, je parle encore moins anglais, donc c'était un peu compliqué pour moi, donc j'appréhendais un peu cette intégration, mais le groupe m'a super bien accueilli. C'est un groupe très familial, voilà, c'est une petite île très conviviale, donc franchement, les gens sont hyper agréables. Et j'ai découvert un groupe hyper, hyper agréable et j'ai su m'intégrer rapidement. Après, j'ai fait l'effort d'apprendre très rapidement l'anglais pour pouvoir justement communiquer avec eux et faciliter aussi mon intégration. Mais en tout cas, voilà, j'ai vite montré que je n'étais pas venu ici pour les vacances et au contraire pour essayer de les aider et amener un peu de la visibilité à cette île de Malte. Et que voilà, j'étais là pour amener un peu ma petite pierre à l'édifice. Et donc voilà, je pense que maintenant ils l'ont compris et qu'ils me respectent aussi pour ça.
Ah, c'est ce que tu fais d'ailleurs, tu portes le numéro 10, on dit déjà de toi que tu es le meilleur joueur de l'histoire de la sélection maltaise. On rappelle qu'ensuite tu as eu une très bonne carrière à l'Union Saint-Gilloise, ce club belge que tu as emmené justement très haut, et puis tu es arrivé à Reims où tu t'es imposé. Où jouent tes coéquipiers d'ailleurs? Il y en a qui jouent à Malte ou ils jouent un peu partout en Europe?
La majorité des joueurs maltais jouent dans le championnat maltais.
Ouais.
On a quand même un ou deux joueurs qui sont aussi à l'étranger, mais à des niveaux, je ne vais pas dire faibles, mais on a un attaquant qui est en 4e division anglaise.
Ah oui.
Et on doit, et voilà, donc ça reste professionnel, mais voilà, c'est quand même des. Je vais dire qu'à part moi, personne réellement joue vraiment au haut niveau. Donc c'est pour ça que. J'ai été vite considéré vraiment comme la légende maltaise.
On imagine pour eux l'événement que c'est d'aller jouer à Wembley, par exemple, vendredi soir. Ça devait être dingue parce que Wembley était rempli. Affronter Harry Kane et compagnie pour tes coéquipiers, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour toi aussi, d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu as une bonne carrière, mais tu n'as pas forcément eu la chance de disputer la Ligue des Champions. C'est un événement majeur pour la plupart de tes coéquipiers, quoi.
Ah, bien sûr, c'est la date qu'on a tous cochée sur notre agenda. Ça reste une expérience incroyable. Jouer devant 80 000 spectateurs, c'est même pour un joueur comme moi qui évolue en Ligue 1, c'est pas quotidien. Donc c'est sûr que je pense que c'est encore plus démesuré pour eux. Mais en tout cas, j'ai été assez agréablement surpris de voir comment ils ont géré cette pression parce que c'est jamais facile de jouer justement devant beaucoup de personnes quand on n'a pas l'habitude. Et comme j'ai dit, on s'est bien battu avec nos forces et on a su ramener un. Pas un résultat positif, mais voilà, on a reçu pas prendre de valise et je pense que ça reste une bonne chose pour Malte.
Teddy Thomas, international maltais, joueur du Stade de Reims en direct avec nous dans l'Intégral Foot spécial Euro 2024. Je rappelle que Malte est 171e au classement FIFA, mais vous avez quand même gagné quelques matchs. Vous avez battu Gibraltar, notamment en septembre. Il y a des victoires en Ligue des Nations également. Et on l'a dit, Teddy, vous étiez dans une poule relevée. Il y aura une finale dans ce groupe pour l'Italie. Hein, l'Italie qui joue cette finale contre l'Ukraine sera lundi à Leverkusen parce que malheureusement, l'Ukraine ne peut pas accueillir de match sur son sol. L'Italie ne doit pas perdre pour se qualifier pour l'Euro. On se pose beaucoup de questions sur cette équipe italienne. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as croisé les Italiens? Est-ce qu'elle t'a fait beaucoup moins bonne impression que cette équipe anglaise, par exemple?
Je ne dirais pas qu'elle m'a fait beaucoup moins bonne impression, mais les Italiens ont une mentalité différente de celle des Anglais. Justement, je pense que l'Italie, après justement le 1-0 et 2-0, c'est une équipe qui est beaucoup plus dans la gestion, on va dire, et qui va plus se contenter de gérer le match plutôt que de continuer à nous mettre une valise. Donc, je dirais pas que c'était plus facile, mais on va dire que on subissait beaucoup moins. Ça reste une équipe de grande qualité.
Il y avait
avec,
moins de rythme.
Voilà,
ouais.
Voilà, beaucoup moins de rythme, exactement. Voilà, beaucoup moins de rythme. On va dire qu'après le 1-2-0, voilà, le match était, je vais pas dire fini, mais voilà, pour eux, ils se sont contentés de ça. Et pour nous, après, c'était plus facile de défendre parce qu'il y avait beaucoup moins de rythme.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine a un bon coup à jouer. Hein. Si l'Ukraine bat l'Italie à Leverkusen, c'est l'Ukraine qui passera, qui sera qualifiée pour l'Euro. Est-ce que tu dis qu'il y a un danger pour les Italiens, que cette équipe ukrainienne a du talent?
Bien sûr, il y a pas mal de talent dans cette équipe. Après, l'Ukraine, je pense que nous, ça a été nos deux meilleurs matchs de la phase de poule.
Ouais. Vous ouvrez le score d'ailleurs contre eux. Hein.
Ouais, voilà, on ouvre le score, on fait plutôt un bon match. Et même sur le match aller, je crois qu'on perd 1-0 sur un penalty.
C'est ça.
Donc on avait fait des bons matchs face à eux, mais c'est une équipe franchement qui a de la qualité, avec des joueurs de très haut niveau aussi. Donc c'est vrai que je pense que l'Italie, ils s'en méfient et ils ont bien raison.
On peut citer des joueurs. Hein. Il y a Mudryk, le joueur de Chelsea, ouais, Zinchenko sûr, hein. Notamment. Pas mal de joueurs à fort potentiel dans cette équipe ukrainienne. Toi, personnellement, quel est ton meilleur souvenir en sélection? Là, t'es en sélection depuis un peu moins de 3 ans. Est-ce que le souvenir marquant, c'est quoi? C'est justement Wembley vendredi? C'est un autre match?
Honnêtement,
quoi
j'ai deux moments qui ont marqué pour moi cette sélection. C'est en termes de stade, bien sûr, c'est Wembley. Ouais. Parce que c'est vrai que, franchement, ça reste le plus beau stade que j'ai pu voir pour le moment de ma carrière. Comme je dis, jouer devant 80 000 spectateurs, c'est pas rien. Et mais l'élément moi qui m'a le plus marqué en sélection, c'est d'avoir joué contre Modric, contre la Croatie, d'avoir pu affronter Modric et voilà qui était justement Ballon d'Or à ce moment-là.
Ah oui.
Et voilà d'être reparti avec son maillot et ça a été pour moi genre un moment mémorable en sélection. Quoi. Ouais.
Puis un dernier mot, Teddy, avant de te laisser sur le Stade de Reims, quand même, quelle saison vous réalisez? Vous êtes 5e de Ligue 1 à égalité avec le 4e Lille. Vous êtes à 4 points du podium. Tu découvres la Ligue 1, tu te régales dans cette équipe rémoise qui est assez jeune d'ailleurs, avec un coach Will Steele qui a des idées novatrices. C'était vraiment le bon choix pour toi? T'es épanoui à Reims?
Ouais, bien sûr. Ça a été, pour moi, ça a été justement le choix logique. Hein. J'ai longuement discuté avec eux. Voilà, le club m'avait proposé, voilà, m'a mis en place ce projet et voilà, et j'ai tout de suite adhéré parce que voilà, c'est un projet ambitieux et c'est ce qui concorde entre guillemets avec ma mentalité. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux qui veut toujours viser plus haut et c'est un club comme ça qu'il me fallait pour continuer ma progression malgré mon âge. Je sais que j'ai encore quand même une marge de progression parce que, comme vous l'avez dit, je découvre cette Ligue 1 et voilà, donc c'est un club comme ça qu'il me fallait, un coach comme ça qu'il me fallait, jeune, ambitieux et une équipe jeune, ambitieuse qui se pose pas de questions, voilà, qui joue match après match et qui essaye toujours de prendre match après match, mais toujours en essayant de le gagner et on verra bien jusqu'à où ça nous mène.
30 ans pour toi, 10 matchs de Ligue 1, 4 buts, 2 passes D. Et t'as peut-être un statut à assumer désormais de meilleur frappeur de coup de pied arrêté du championnat, là. Ça te pend au nez quand même, vu le début de saison.
Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, j'ai attaqué fort, donc c'est vrai que maintenant c'est un peu au nez, à moins de les travailler encore pour essayer de continuer à être performant, parce que je sais que c'était un truc qui faisait défaut justement les années passées au Stade de Reims et qui m'ont recruté aussi pour ce domaine-là. Donc je suis content que pour le moment on performe, mais le plus dur reste à venir parce qu'il faut toujours confirmer. Donc.
Merci Teddy pour ta disponibilité. Félicitations encore pour ce déplacement à Wembley et pour l'engagement que tu mets dans cette sélection maltaise. Et puis on espère que ta saison au Stade de Reims va se poursuivre sur la même lignée, quoi, que vous allez continuer à performer. Merci Teddy.
C'est gentil, merci à vous.
Salut Teddy, à bientôt.
Salut, ciao ciao.
15h44 sur RMC, coach Courbis est toujours là. Il est sympa, hein, Roland, ce Teddy Thomas.
Donc, quand tu l'écoutes, tu es moins étonné que ça soit aujourd'hui un bon joueur, mais je reste persuadé qu'avec sa marge de progression, ça va devenir un très très bon joueur.
Tu te rends compte, le gars qui est international maltais, qui joue en 4e div anglaise et qui se retrouve à Wembley devant 80 000 spectateurs face à Rashford, Harry Kane et compagnie. Quelle histoire. Et voilà, sur les belles histoires des phases de qualif pour l'Euro 2024, on continue le spécial jusqu'à 17h sur RMC avec coach Courbis dans un instant justement. On parle des Anglais, Roland les voit comme grandissime favori avec l'équipe de France. On va en parler avec notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
15h48 sur RMC, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On lance l'Euro 2024 sur RMC avec Coach Courbis jusqu'à 17h. Dans 12 minutes, on parlera du pays organisateur, l'Allemagne. Roland est le seul homme en France à les voir favoris de cet Euro. Il va vous expliquer pourquoi.
Un des favoris
avec la France et l'Angleterre. On parlera de l'Angleterre dans un instant avec Julien Laurence. On sera avec Paulo Breitner et Fred Hermel pour l'Espagne à 16h. Et puis grand rendez-vous à 16h45. On sera en direct avec Loïs Openda, l'attaquant de la Belgique. Les Belges doivent battre l'Azerbaïdjan ce soir pour assurer la première place et le statut de tête de série. L'ancien buteur de Lens sera avec nous. 15h48 avant l'arrivée de Julien Laurence. Roland, on t'a demandé de bosser pour cette spéciale Euro 2024. Et tu as travaillé sur ta liste de joueurs que tu sélectionnerais pour disputer cette compétition, la liste de l'équipe de France avec 23 joueurs retenus. Est-ce que tu peux nous la donner, la liste de Coach Courbis?
Avec plaisir.
Pour cette compète, vas-y.
Bah, disons qu'on va commencer par les gardiens. Gardien, bon, je change rien. Maignan, Samba. Le troisième gardien, par contre, je réfléchirai entre Areola ou Chevalier.
Ça, c'est historique. Toujours un problème avec Areola.
Non, mais je pense qu'il est moyen, sympathique, mais bon, je pense qu'il y a meilleur que lui. Donc ensuite, en ce qui concerne les défenseurs, ben Klos, qui a quand même eu une droite au menton dans la dernière Coupe du Monde, mais là qui a marqué beaucoup de points. Les deux frères Hernandez, Konaté, Saliba, Todibo. Upamecano, et je réfléchis entre Koundé ou Pavard, mais ce serait 50-50, mais si tu me dis 51-49, 51 pour Pavard.
Plutôt Pavard que Koundé.
Avec les deux postes plus polyvalents que Koundé, parce que j'ai l'impression que Koundé, même si c'est l'idée de Didier, bah, il est pas très content de jouer à Rio Bro.
Rapidement, les milieux et les attaquants, Roland.
Les milieux, Kamavinga, Fofana, Camara, Rabiot, Zaïre Emery, Tchouaméni. Aucune invention de ma part. Et en ce qui concerne...
Pas de Zaïre Emery.
Hein?
Pas de Zaïre.
Oui, Rabiot, Zaïre Emery et Tchouaméni.
Ah bien. Okay.
Donc ensuite, ben, les attaquants, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Colomani, ben, j'attends quand même de voir un petit peu dans les mois à venir.
Ouais.
Pour le moment, je trouve pas mal, mais dans la catégorie, doit mieux faire. Si je dois choisir entre Colomani et Thuram, évidemment, tu me dis, bon, il y a 24 joueurs plutôt que 23, ben, on prendra les deux. Mais s'il faut prendre un des deux, bon, Mbappé, évidemment, je sais pas si j'irai pas plutôt vers le 51-49, Thuram.
Ok. Eh ben, Roland, merci pour cette liste. On verra les choix de Deschamps le moment venu. Accueillons Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise. Salut, Julien.
Salut à tous.
Bon, Julien, c'est une tradition. L'Angleterre se balade en qualification. Ça a peut-être été encore un peu plus fort cette année. 6 victoires, 1 nul en qualif. Génération exceptionnelle. Jude Bellingham, Harry Kane, Jack Grealish. On en a parlé avec Teddy Thomas, international maltais, qui les a affrontés vendredi, qui les a trouvés énormes alors qu'il y avait des absents. Julien, comment on est à 7 mois de l'Euro en Angleterre? Est-ce qu'on est confiant ou est-ce que malgré tout on continue de critiquer le sélectionneur Gareth Southgate?
Alors il n'y a pas que moi, hein, je vous préviens, il n'y a pas que moi trouve beaucoup à redire du Sylvain Ripoll anglais, parce que vendredi soir, j'ai pas écouté ce que Teddy avait dit, mais s'il a trouvé cette équipe d'Angleterre là impressionnante, il est bien le seul, parce que c'est vrai que les critiques ont été assez sévères, enfin assez logiques je trouve, mais ont été nombreuses après la rencontre contre Malte où on a vu une équipe certes sûrement B, parce qu'effectivement il n'y avait pas Rice, il n'y avait pas Bellingham, il n'y avait pas Saka par exemple, il n'y avait pas John Stones non plus, donc il y avait aussi des joueurs qui jouent moins que d'autres ou pas habituellement, mais c'est vrai que c'était très moyen encore une fois dans la performance. Quand on voit un peu les Bleus hier contre Gibraltar qui est peut-être juste en dessous Malte, et quand on voit l'équipe d'Angleterre contre Malte, c'est vrai que ça laisse beaucoup à désirer. Donc pas mal de critiques encore sur Southgate, des critiques sur l'absence de plan B, sur l'absence de solution en dehors du 11 de départ qui lui est effectivement très fort, il y a aucun doute là-dessus. Et moi je répète encore ce que j'ai toujours dit, ce qu'on a toujours dit avec coach d'ailleurs, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est que c'est une génération exceptionnelle qui aurait déjà dû gagner un grand titre, que ce soit l'Euro où ils ont perdu en finale ou la Coupe du Monde où ils perdent en demi-finale. Et c'est la dernière chance vraiment pour Southgate, parce qu'après il partira quoi qu'il arrive, mais ce serait de sa faute encore une fois si cette équipe-là n'était pas championne d'Europe cet été.
Toi qui suis beaucoup les deux nations, la France et l'Angleterre, tu penses que la France est au-dessus de l'Angleterre ou t'en es pas
elle est simplement, au-dessus sur l'expérience qu'elle a de ce genre de phase finale là et de remporter ses matchs coup près. On l'a vu encore au Qatar en quart de finale, hein, la victoire des Bleus en quart 2-1 contre l'Angleterre, elle se fait au mental, elle se fait pas au talent, elle se fait pas à la tactique, elle se fait pas forcément au
pénalty raté aussi.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça, un peu de réussite, mais aussi avec sur ce côté-là mental. Et c'est ce qui manque aux Anglais, mais ça vient aussi de ton entraîneur, ça. Et je veux pas m'acharner toujours sur Southgate, mais je trouve qu'il a vraiment trop de limites tactiques et mentales et dans la préparation et tout ça. C'est ce qui a fait défaut pour l'instant. Il a encore une opportunité cet été en Allemagne, on verra. Mais pour moi, ils font partie des favoris avec les Bleus sur la même ligne, avec d'autres aussi, je pense. Hein, mais c'est les deux équipes les plus fortes. Ouais.
Julien, l'enjeu pour lui, c'est de parvenir à aligner la meilleure équipe possible. Il faut faire jouer ensemble Jude Bellingham et Harry Kane. Bellingham a passé un cap. Il est devenu un des meilleurs joueurs du monde en arrivant au Real Madrid. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que tactiquement c'est ok? Et voilà, est-ce que, à ton avis, l'Angleterre, c'est la même question que je posais pour l'équipe de France, mais est-ce que les Anglais sont plus forts qu'il y a un an au moment de la Coupe du Monde, d'après toi?
Ça fait aucun doute. En tout cas, eux individuellement, Bellingham est meilleur, Rice est meilleur, Saka est meilleur, Kane est forcément meilleur avec l'expérience qu'il a en ce moment au Bayern Munich. Il y a peut-être quelques postes comme arrière gauche où Shaw est blessé, tu sais pas trop. Chilwell aussi, donc je sais pas trop qui pourrait jouer arrière gauche et dans quel état, mais ils sont plus forts individuellement. Collectivement, je trouve pas, parce que Southgate fait pas du bon travail selon moi. Mais après, il reste très fort. Mais Bellingham, Southgate a longtemps été réticent de le faire jouer comme il joue au Real Madrid.
En
là,
numéro 10.
On a pu le voir parce qu'il était blessé en numéro 10. Ouais. Mais on a vu Kane et Moussiala très bien jouer tous les deux au Bayern. Et aujourd'hui, on peut penser que Bellingham et Moussiala, c'est un petit peu le même registre. C'est le même poste en tant que numéro 10. Donc, il y a aucune raison que ça fonctionne pas aussi, que ça se passe pas avec l'équipe d'Angleterre. Donc, pour moi, encore une fois, la plus grosse réserve, c'est sur l'entraîneur. Il y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'il a encore le temps pour trouver la bonne formule et enfin mener cette équipe à un titre majeur, le premier depuis 66.
Juste qu'on ait une idée, le quatuor titulaire, c'est donc Bellingham, Grealish à gauche, à droite Saka et devant Harry Kane. Ça fait du bon joueur quand même.
Ouais, Saka à droite, donc Saka, Bellingham, Kane sûr, et après à gauche il y a encore un petit peu de débat. Ça peut être Rashford, ça peut être Grealish, ça peut être un Foden aussi.
Là c'est moi qui vous pose la question, puisqu'on parle Angleterre et France. Ce quatuor là, il est inférieur à celui de l'équipe de France?
Ah non, pas sûr.
Pour moi non.
Ouais. Bon, après on est solide aussi, hein. Si tu mets Griezmann, Mbappé avec.
Ah non, mais je te dis pas
Coman,
que.
Coman ou Dembélé.
Il y a explication, mais je vois pas l'Angleterre inférieure.
Il y aura match, en tout cas. Alors, j'ai peut-être un bémol sur le gardien de but anglais. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais là, est-ce qu'il y a pas...
Ouais, sur Pickford. Non, mais sur Maguire aussi, par exemple, sur le fait que Jordan Henderson, qui joue maintenant en Arabie Saoudite, soit encore titulaire dans cette équipe-là. C'est du grand n'importe quoi. C'est hallucinant. Donc, après, voilà, ils ont, je pense qu'ils ont, sur certains postes, plus de limites que nous sur ces postes-là aussi. Ouais. Pickford est moins fort que Maignan, par exemple. Je pense que n'importe quel de leur arrière gauche est moins fort que Théo. Bon, après, à droite, ça se discute peut-être un peu plus, mais même dans les centraux, je suis désolé, Maguire, c'est pas possible non plus. Donc,
Maguire, c'est sûr qu'en France, il jouerait pas.
C'est sûr. Mais c'est sûr qu'avec Southgate, il jouera. Donc ça, je vous le dis tout de suite, il sera, à part s'il est blessé.
C'est une bonne nouvelle pour nous, alors. Super.
C'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, effectivement.
Bon, ça marche.
Donc voilà, ça se vaut, mais je pense qu'on peut être là.
On a parlé de quatuor offensif. Là, par contre, gardien, je suis d'accord, évidemment.
Oui,
mais quatuor défensif, si on parle d'une organisation à quatre, pour moi, la France est supérieure.
À part peut-être le poste derrière droit où Walker est un super joueur et Klose doit encore confirmer. Merci Julien, tu nous tends une perche parce qu'on a un excellent débat à 16h30. On parlera du Portugal et du cas Ronaldo. Est-ce que jouer en Arabie Saoudite, c'est un problème lorsqu'on est un cadre en sélection? Tu nous as parlé d'Henderson qui est en Arabie Saoudite et qui continue d'être appelé en Angleterre. On en parlera pour la star Ronaldo. Merci Julien, bonne soirée. On se retrouve dans l'after.
Ciao, ciao.
Et dans un instant, on revient. On va parler de l'Allemagne, pays organisateur de cet Euro avec Paulo Breitner. On parlera également de l'Espagne avec Fred Hermel. Est-ce que l'Espagne n'est pas limitée à cause des qualités de son effectif? À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
16h08 sur RMC, l'Intégral Foot, spécial Euro 2024 jusqu'à 17h avec le grand coach Courbis. On va poursuivre notre tour d'horizon avec les drôles de dames. Le miracle est-il possible pour les Allemands? L'Espagne est-elle assez armée pour aller plus loin? À 16h30, on parlera du Portugal et du cas Cristiano Ronaldo, toujours patron de la sélection malgré son départ en Arabie Saoudite. Et puis un invité à 16h45, Loïs Openda, ancien buteur de Lens et avant-centre de la Belgique. des rendez-vous à vous donner à 17h, l'Intégral Sport. On reviendra 10 ans après sur ce match fou au Stade de France, le barrage pour la Coupe du Monde France-Ukraine. Mamadou Sakho, Jeannot Récellier sera là pour évoquer ce souvenir avec Flora Moussy. Et puis autre rendez-vous à 19h, Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet, deux invités à vous annoncer. Le premier, c'est Paul-Henri Mathieu, le nouveau capitaine de Coupe Davis en tennis. Et le deuxième, Roland Bernard Laporte, nouveau directeur du rugby de Montpellier, sera l'invité de Marion Bartoli et de Jean-Christophe Drouet.
Ça va faire beaucoup, beaucoup de bien à Montpellier.
Allez, parlons de l'Euro, on continue. Et heureusement qu'ils organisent la compétition. On va parler des Allemands qui traversent une période délicate à 7 mois de l'Euro 2024. Hier, les joueurs de Julian Nagelsmann ont perdu 3-2 contre la Turquie. Roland, ça paraît dingue pour des Allemands. C'était la 5e défaite en 2023 pour la National Mannschaft. Ça fait 5 de trop pour Polo Breitner qui nous rejoint. Salut Polo.
Bonjour mon cher Benoît, bonjour tout le monde.
Salut Polo.
Polo, je te fais un petit teasing. Roland voit l'Allemagne favorite, tout comme la France et l'Angleterre. Ça paraît dingue, mais oui, il l'a dit. Et il le pense.
Mais je le pense aussi, c'est-à-dire que la grelotte qui est possible, c'est pas d'aller l'emporter, parce que je pense qu'il y a des équipes qui sont au-dessus, notamment les deux que vous venez de citer, que l'Angleterre tourne autour. La France, évidemment, de par son potentiel, est depuis quelques années favorite, j'ai envie de dire numéro un. Il faut juste soulever le trophée au bon moment. Mais en fait, la rencontre de hier, et en fait, les Allemands sont retombés dans leur travers.
Ah, tu sais quoi, Polo? On en parle dans un instant. J'accueille tout de même Fred Hermel. Hola Chico, la drôle de dame espagnole. Salut Fredo.
Oui, quand même. Hola Chicos. Salut les amis.
Fred,
ça va?
Roland ne m'a pas cité l'Espagne comme prétendant au titre.
Il a raison.
Voilà, t'es d'accord. Tu pourras nous en parler d'ailleurs. Tu penses que ça manque de talent, cette équipe espagnole, Fredo?
C'est un creux générationnel énorme.
Ouais.
Mais ça s'est joué au ballon quand même.
Eh ouais. Sait-on jamais. Voilà. On en parle dans un instant. Parlons donc des Allemands qui accueillent cette compétition, qui l'accueilleront dans 7 mois. Polo, tu le disais, la dernière défaite en date, c'est hier, face à la Turquie. 3-2. Bah, dis-nous ce que tu retiens justement de ce match. Vas-y, t'avais commencé.
Ben, si tu veux, c'est au-delà de la défaite, tu as du mal à l'expliquer parce que il y a deux périodes. Il y a les 30 premières minutes où les Allemands ont le pied sur le ballon et sont techniquement largement supérieurs aux Turcs, qui mènent rapidement au score, et tu te demandes quand est-ce que le deuxième but va tomber, et à partir du moment où ça s'est réglé, et ça c'est l'Allemagne qu'on aimerait voir systématiquement. Et puis t'as à partir du moment où les Turcs égalisent avec des buts un peu sortis de l'espace aussi, il faut le dire quand même, et si tu veux, en Allemagne on parle toujours de cette équipe qui est léthargique, qui est complètement lymphatique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne les concerne pas de porter le maillot de la National Mannschaft. Et le problème, c'est que ça se répète. C'est-à-dire qu'on avait échangé le Bundestrainer, évidemment, Hansi Flick était parti. Mais le match qu'on a vu hier, c'est une équipe d'Allemagne version Hansi Flick et pas celle de Nagelsmann, dont on espérait qu'elle soit flamboyante. Et donc, si tu veux, quand tu analyses cette rencontre, tu dis, mais le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est systématique. Donc tu te dis, mais à quel moment ils vont vraiment avoir envie de jouer? Parce que hier soir, encore une fois, les trois milieux offensifs, c'était Leroy Sané, Julian Brandt et Wirtz, ça va. Au niveau du ballon, ils savent à peu près jouer au football. Et encore, il y en a un qui sera titulaire à l'Euro, c'est Moussiala, à la place de Julian Brandt. Donc c'est le 4-2-3-1, entre guillemets, de Nagelsmann est intéressant, parce que techniquement parlant, tu sens que les Allemands ont toujours envie d'avoir la possession, de jouer au ballon. Techniquement parlant, ils sont au-dessus. C'est pas compliqué. Il y a que quelques équipes dans le monde qui peuvent rivaliser à ce niveau-là. Mais au niveau du mental, et moi j'en parle depuis des années avec l'Allemagne, de ce problème-là, tu as l'impression que la compétition c'est au mois de juillet, tous les matchs amicaux avant, c'est pas important. Sauf que tu l'as cité, en 2023, c'est un match sur deux de perdu.
C'est incroyable.
C'est-à-dire, j'ai pas à vérifier, il faudrait peut-être revenir dans les années 50 pour revoir une série comme ça. C'est un truc complètement fou, quoi. Et en Allemagne, si tu veux, le problème c'est que c'est pas compliqué, c'est quand même une nation, avec l'Espagne d'ailleurs, qui a le plus de titres à l'Euro, 3, et si tu veux, si tu gagnes plus en Allemagne, ça n'intéresse plus grand monde, en fait.
Roland.
Et moi, j'ai peur du public qui ne réponde pas, comme hier. J'ai peur du public qui ne réponde pas vraiment présent. D'ailleurs, de toute façon, la fédération, on en parle parfois dans l'after, a beaucoup de soucis entre les contrôles fiscaux, la baisse des effectifs, etc., des licenciés, les femmes qui vont pas bien, les U21 maintenant qui vont pas bien non plus. Si tu veux, t'as l'impression que t'as une vraie crise, non pas générationnelle, mais que tout arrive en même temps. Donc je suis non pas optimiste, non pas pessimiste pour l'Euro. Je vois le potentiel de cette équipe,
faut que ça se
mais
réveille,
à chaque fois que je les vois jouer, et je suis déçu.
Roland, qu'est-ce qui te fait dire que l'Allemagne sera à prendre au sérieux? Déjà l'effet domicile, forcément.
Voilà, tout simplement, déjà, c'est pas dans 15 jours. Hein, non, il y a nettement le temps de pouvoir réfléchir. Et l'engagement, il a maintenant beaucoup plus de temps que quand il était entraîneur, sélectionneur. Ben, ce sont deux métiers totalement différents. Et ensuite, le fait d'organiser. Je ne vais pas vous donner tous les exemples qu'on a pu s'apercevoir. T'es pour nos amis anglais, bizarrement, une seule fois où ils ont gagné.
66.
C'était en 66.
Et ils ont fait finale de l'Euro. C'était la phase finale, était chez eux.
Ben ouais. Oui. Donc, ça s'est joué au tir au but. Donc des Allemands chez eux, avec en plus l'effectif. Alors je dis pas qu'il y a 25 joueurs de très très haut niveau. Mais 16, 17, 18, ils y sont. S'il y a un problème de numéro 9, eh ben, il y aura une solution qui sera trouvée avec une des organisations à la mode, le faux numéro 9, et rencontrer les Allemands en Allemagne. Eh ben, pour moi, je dis que ça sera très compliqué. Je dis pas que ça sera impossible de les battre, mais très compliqué.
Qu'est-ce qu'on dit publiquement en Allemagne? Quand Nagelsmann a été nommé, quel a été l'objectif fixé, Polo?
Alors globalement, c'était le Bundestrainer qu'on souhaitait, donc tout le monde était content, mais on a beaucoup mis la poussière sous le tapis, puisque n'oublions pas qu'il appartient toujours officiellement au Bayern Munich, et qu'en fait, il est mis à disposition. Le Bayern a signé un chèque jusqu'à la pré-euro du delta qu'il y avait entre ce qu'il touchait au Bayern et ce que peut payer la fédération. Donc si tu veux, ça a posé quand même quelques problèmes. Il y a eu quelques papiers qui sont sortis dans la presse où il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Parce qu'en fait, on ne résout pas le problème de la sélection allemande. On a juste un sélectionneur, aussi talentueux soit-il, de par son jeune âge, etc., et ce qu'il a déjà prouvé, qui est là presque, j'ai envie de dire, pour une pige. Avec le risque qu'il se plante dans les grandes largeurs à l'euro, et donc son aura évidemment va baisser dans les médias, et puis il peut être le sauveur entre guillemets de la nation, mais il a jamais dit qu'il allait continuer après 2026-2028. C'est ça le vrai problème.
Et lui, quand il parle d'objectif, il dit que les Allemands visent le titre de champion d'Europe, ou il est un peu moins prétentieux?
Il parle pas comme ça, il parle de spectacle pour l'instant. Si tu veux, le problème, c'est que entre ce qui s'est passé hier soir, lui il a été très dur hier soir sur les, comme quoi beaucoup de joueurs n'avaient pas le niveau mental. On appuie beaucoup sur le mental en ce moment en Allemagne, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé, la tournée aux États-Unis, donc la rencontre contre les États-Unis et le Mexique. Les deux étaient très très intéressantes et pleines d'enseignements. On avait pendant un moment, notamment la victoire contre les États-Unis, le sentiment, même si tout n'était pas parfait, que l'équipe d'Allemagne, eh ben, elle avait envie de jouer. Ensuite, elle avait joué quelques jours après, toujours à Philadelphie, toujours aux États-Unis, le Mexique, qui justement les avait mordus au mollet de la première à la 90e minute. Et on voyait une équipe d'Allemagne un peu dans les cordes, mais qui était allée chercher le match nul. C'était vraiment intéressant. Et hier, on a retrouvé une équipe d'Allemagne d'avant Nagelsmann, c'est-à-dire qui était capable de sombrer dans les grandes profondeurs, comme si vous voulez, j'avais pris cette image avec Roland hier soir, c'est une équipe qui veut bien aller à la récré jouer au football, mais si on commence à mettre des tacles, ben je vais faire du sprint, quoi, par exemple.
Dans l'image. Merci Polo d'avoir été avec nous. Prochain match le 21. Ce sera mardi face à l'Autriche, match amical pour les Allemands qu'on suivra forcément.
À quel endroit?
C'est où d'ailleurs ce match?
À Vienne.
C'est à Vienne, voilà, okay. En Autriche. Autriche à prendre au sérieux, hein, parce que c'est une équipe compétitive. Merci Polo, bonne
Merci
soirée à
vous.
Toi,
entre Bonjour, Polo.
Il est là, notre Espagnol, notre Fredo, évidemment, pour parler de la Roja. La Roja qui s'est brillamment qualifiée d'ailleurs pour cet Euro 2024.
On rappelle, À deux journées de la fin,
on rappelle que les Espagnols ont remporté la Ligue des Nations. Ils sont très en forme en 2023. Il y a 8 victoires et une défaite en 9 matchs. Qu'est-ce qui te pose problème alors, mon petit Fredo? Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu es pessimiste pour cet Euro 2024?
C'est pas que je suis pessimiste, mais je suis comme l'ensemble des gens qui connaissent le foot en Espagne, réaliste sur le réel niveau de cette génération. Mais je pense sincèrement que si l'Espagne a une chance de faire quelque chose de bien dans cet Euro, et elle a cette chance, c'est parce que c'est une équipe qui est consciente de ses limites et consciente de sa modestie. Avec un sélectionneur qui s'appelle Luis de la Fuente, qui est un style radicalement différent à celui de Luis Enrique qu'on connaît bien maintenant au Paris Saint-Germain. Luis de la Fuente, c'est quelqu'un qui est là, qui est arrivé après l'échec d'Espagne au Mondial, je vous rappelle, éliminé en huitième de finale face au Maroc. Il est arrivé là, il a été secoué par l'affaire Rubiales, histoire du président de la fédération. Même avant toute cette histoire, on racontait à Madrid, et les rumeurs étaient plutôt sensées, que s'il ne remportait pas les Ligues des Nations, il ne continuerait pas à la tête de la sélection. C'est un entraîneur très modeste, un entraîneur des équipes de jeunes de la fédération. Il n'a jamais eu de grand club. Mais la sincérité...
C'est un Raymond Domenech, quoi.
Je sais pas, je veux pas faire de comparaison, mais Raymond Domenech, ça a été un grand joueur et il a entraîné des grandes équipes quand même. Luis de la Fuente, ça a été un joueur très très modeste.
Oh là, attends, Roland est en train de s'étrangler.
Domenech a joué en première division en France.
Hein, quand même. Oui,
en termes
de joueur.
Je le vois uniquement sélectionneur, non?
Il a entraîné Lyon, je crois.
Il a entraîné Lyon aussi.
Était
un joueur de première division. Luis de la Fuente n'a jamais été.
D'accord.
Donc, ou alors quelques vagues petites choses, quoi. Mais vraiment, c'est. Ouais. Et Luis de la Fuente, c'était un quasi inconnu pour tout le monde. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas de grands discours. C'est quelqu'un qui ne provoque pas de polémiques avec la presse, avec les supporters. C'est quelqu'un qui a entraîné les équipes de jeunes, donc il connaît très bien les nouvelles générations. Et qui commence à faire.
Est-ce que ça joue bien, Fredo, tout simplement?
Ça, en Espagne, ça joue jamais mal.
Ouais.
Mais pour une raison très simple, c'est que la formation de base du joueur espagnol, elle reste quand même, même si le niveau technique globalement a baissé, le joueur espagnol est bien formé techniquement. Mmh. On est encore en Espagne sur des critères physiques avant, critères techniques avant les critères physiques. Donc, vous n'avez pas de ce qu'on appelle des primos, des cousins. Les cousins dans le foot espagnol, c'est ceux qui savent mal jouer, quoi. Voilà, c'est qui jouent mal. Non, mais je trouve que cette Espagne, elle est plutôt pragmatique. Mmh. Elle va toujours essayer d'aller vers l'avant, elle va toujours chercher à avoir la possession, mais elle n'est pas dans l'absolutisme qu'on avait vu chez Luis Enrique, dernière version. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que cette Espagne-là ne tombe pas dans ses travers à avoir 80% de possession, voilà, et jamais faire stérile. Une passe en avant.
Ouais. Non, l'Espagne qui reste sur un échec à la Coupe du Monde, la défaite contre le Maroc.
Tir au but. Quoi. Mais je trouve que cette Espagne, elle est plus modeste dans son approche. Et... D'ailleurs, vous regardez la liste...
Ben c'est ce que j'allais dire. Tu sais, j'avais posé la question à Roland. Roland, je veux pas te piéger, mais qui est la star du foot espagnol en sélection là?
Le collectif.
Ouais, ben voilà, ça veut tout dire. On a du mal à sortir un joueur du lot.
S'il y en a un.
C'est qui?
Bah, Rodri.
Ouais. Rodri, ouais, c'est vrai.
Ouais, allez.
Ouais, c'est vrai.
Ah bah, Rodri.
Meilleur milieu
de
terrain du monde.
Dans cet effectif, il n'y a aucun joueur qui soit dans le top 3 ou top 5 mondial. Sauf Rodri. Rodri qui est peut-être le meilleur à son poste, milieu défensif.
6, quoi, vrai 6.
Vraiment, enfin, c'est le seul. Le reste, vous regardez. Après, il y a de bons joueurs. Hein. On peut pas dire, par exemple, que je sais pas que
bon, les sites Ferran, Gavi, Oyarzabal.
Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, c'est vraiment un bon joueur de la Real Sociedad. Lamine Yamal, le joueur de Barcelone, c'est 17 ans. Il est tout jeune. Rossellou, il est plus ou moins remplaçant au Real Madrid. Mais Morata, par exemple, il fait un très bon début de saison. Ouais. C'est pas une grande star, mais c'est un très bon joueur quand même. Voilà. Et après, quand même, on est quand même une équipe où vous avez des joueurs comme Carvajal, comme Navas, comme Pau Torres, comme Gaia, qui sont des vieux de la vieille. Il y a un mélange de vieux et puis de petits jeunes qui demandent à éclore, qui ne demandent qu'à éclore. Après, la charnière centrale espagnole titulaire, elle est française.
Ouais, c'est fou.
C'est Laporte et le Normand.
Eh ouais.
C'est-à-dire des joueurs dont ne veut pas la France, parce que la France considère qu'il y a des joueurs meilleurs que pour ce poste. Ils ont été naturalisés. C'est ce
qui est possible.
Qu'on est meilleur que ces joueurs. Bah oui, bien sûr.
Ah bah oui.
Mmh. Ouais. Et après, alors il y a une Joaquín Maroto, qui est le grand journaliste qui suit la sélection espagnole pour mes copains du quotidien AS, a fait une interview cette semaine avec le Normand, qui disait une chose qui me plaît bien.
Ouais.
Il dit: je suis aussi fier d'être français que de jouer avec l'Espagne. Mais moi, je le trouve très honnête, ce garçon.
Ouais. 27 ans, joueur de la Real Sociedad.
Il est pas en train de dire non, j'ai oublié la France. Non, je suis français, c'est un joueur français. Il est français, mais il est fier de jouer avec la sélection espagnole parce qu'on lui laisse une chance. Ouais. Et en fait, cette honnêteté-là, après, c'est un bon petit joueur. C'est pas une grande star du foot, mais il est dans une très belle équipe.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas mal de joueurs qui sont portés par cette hype autour de la Real Sociedad, hein, qui fait une saison fantastique.
J'aime la Real Sociedad, en tout cas,
je le trouve très bon.
Et ouais, il y a une meilleure équipe d'Espagne. Voilà, il y a une ossature Real Sociedad dans cette sélection, c'est normal.
Oui, c'est vrai. Mikel Merino, Oyarzabal, le Normand, vous avez de très bons joueurs de football. Après, le problème, c'est qu'on, la dernière fois que l'Espagne a gagné, il y avait les 11 titulaires et ils étaient tous 1 ou 2 un ou deux ou trois maximum au niveau mondial.
Et Fred, juste une question, parce que nous, on a beaucoup eu le débat dans les émissions foot d'RMC. Donc nous, on a Warren Zaïre-Emery qui s'est blessé hier à la cheville, qui a 17 ans. Vous avez Yamal en Espagne, qui est encore plus jeune, hein, qui est né en 2007, joueur du Barça, qui joue en club et qui est désormais en sélection.
Il n'est pas titulaire. Hein.
Il n'est pas titulaire au Barça.
Il n'est pas titulaire incontournable. Voilà.
Est-ce qu'il est là parce que c'est un phénomène? Est-ce qu'il est là parce qu'il est meilleur que les autres? Comment c'est vu ça en Espagne que Yamal, à 16 ans et demi, soit déjà en sélection A?
Bah, en fait, c'est à partir du moment où on a un sélectionneur qui s'occupait des jeunes, c'est pas idiot de l'avoir, en fait. Donc non, je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir Lamine Yamal. Mais c'est-à-dire que, sincèrement, quand il est en forme, il est différent des autres.
Un vrai
c'est-à-dire
talent.
C'est un vrai talent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rompt les lignes. Sa manière de dribbler, sa vitesse, son insouciance, c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose. Donc moi, je trouve que la manière dont il est géré par Luis de la Fuente est plutôt intelligente, quoi. Donc non, moi je trouve cette sélection totalement cohérente. Il y a peut-être un absent qu'on regrette, c'est Isco. Isco qui fait un début de saison absolument extraordinaire avec le Betis. Ouais. Mais on sait qu'Isco est quelqu'un qui a des hauts et des bas, et que Luis de la Fuente a peut-être envie de voir un peu plus de régularité chez Isco, c'est-à-dire que cette régularité affichée depuis le mois de septembre continue. Isco sera peut-être à l'Euro, parce que lui, quand il est en forme, c'est un phénomène. C'est un phénomène technique, mais c'est pas quelqu'un qui dédie sa vie au football. C'est pourquoi il n'a pas triomphé comme il aurait dû, comme son talent l'annonçait.
Ce sera peut-être la soirée disco d'ici quelques temps.
Ouais, ça, on l'a jamais fait, ça, là. On l'a jamais fait, hein. Tu vois,
ça marche toujours.
Donc voilà. Donc c'est pour dire que moi,
Et
en fait, personne en Espagne ne dit, tiens, la sélection est favorite. Non. Mais, en fait, je trouve qu'elle génère une certaine sympathie du fait du comportement de son sélectionneur, du fait de pas vouloir être en conflit, du fait de pas monter les joueurs contre la presse ou contre les supporters. Donc, la chance de l'Espagne, elle est peut-être justement dans cette humilité et ce bon sens commun qui l'anime en ce moment.
C'est toujours une équipe à éviter dans une phase finale de grande compétition. Ça, on est tous d'accord.
Bien sûr.
Merci. Ce soir, l'Espagne joue la Géorgie, justement, voilà, pour
assurer la première place.
Stade de série. Tout à fait.
Exactement.
20h45, le match. On te retrouve dans l'after, Fredo?
Bah, si on veut de moi, je serai ravi.
Bien sûr, tu seras là, je pense. Et puis, demain, il y a Génération After avec les drôles de dames. Là, c'est le vrai rendez-vous des drôles de dames. Et là, on se régale tous les lundis. Merci, Fredo.
Je vous embrasse, les amis. À très vite.
16h25 sur RMC. Tiens, je précise que les qualifs pour la Coupe du Monde 2026 ont démarré en Afrique. C'est la deuxième journée. Deuxième victoire pour l'Algérie, Roland. L'Algérie a gagné au Mozambique.
Ouais.
2-0. Et là, il y a quelques matchs européens en cours. Il y a un partout désormais entre la Hongrie et le Monténégro. Un partout entre la Serbie et la Bulgarie. Nous, dans un instant, on va parler du Portugal et du cas Cristiano Ronaldo, qui est toujours le patron de la sélection, malgré son départ en club en Arabie Saoudite. On va en parler avec le grand, l'unique Nico Villas, qui nous rejoint tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
16h30 sur RMC, on est là jusqu'à 17h avec Coach Courbis pour cet Intégral Foot spécial Euro 2024. Dans un quart d'heure, un invité avec nous, Loïs Openda, l'avant-centre de la Belgique, ancien buteur du RC Lens. On pourra parler avec lui de la sélection belge. Roland, tu m'as pas mis les Belges, les favoris d'ailleurs.
Non, outsider.
Outsider, comme l'Espagne alors.
Exactement.
Ok, on pourra en parler avec lui, comment les Belges se voient à 7 mois de la compétition. Mais tout de suite, parlons du Portugal avec Ola Viva Nico Villas qui nous rejoint. Salut Nico.
Ola Viva.
Ça va Nico?
Salut Nico.
Bah écoute, ça va et vous?
Ça va aussi bien que le Portugal?
Alors c'est vrai que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore quelques années, ça se jouait au barrage, tu vois, l'habitude des barrages.
C'est vrai.
Alors il y a encore plus loin, tu sais, il y avait l'anniversaire là, du France-Bulgarie. Bah, à peu près même époque, les Portugais, ça se faisait sortir dernier match de poule contre l'Italie, ça se faisait sortir dernier match de poule contre l'Allemagne avec Marc Bata qui met un rouge à Rui Costa qui doit sortir, mais ça c'était les années 90, et puis depuis 2000, ils sont là dans toutes les phases finales. Parfois ça a été dur au barrage, et puis là c'est qualification précoce, historique, statistiquement parlant.
9 victoires en 9 matchs en 2023, 34 buts marqués, 2 encaissés. Est-ce que Nico, on peut mettre un bémol par rapport à la qualité du groupe? Slovaquie, Luxembourg, Islande, Bosnie, Liechtenstein.
Non, parce que le le Portugal a déjà eu des groupes qui étaient aussi bons, aussi mauvais. Tu le vois comme tu veux que celui-là. Et c'est pas pour ça qu'ils ont fait un 9 sur 9, peut-être un 10 sur 10. Mmh. Enfin, c'est fou ce qu'ils font. Ils sont qualifiés à trois journées de la fin. Ils ont encaissé 2 buts contre la Slovaquie. Ils ont attendu le 7e match avant d'encaisser un but. Enfin, il y a tout ça qui est bien. Et là, je pense à Roberto Martinez, qui est le sélectionneur depuis la fin de la Coupe du Monde. Roberto Martinez, il a fait une campagne pour l'Euro avec la Belgique. Il a fait 10 victoires en 10 matchs. Il en est à 9 sur 9 avec le Portugal. C'est-à-dire que ce mec ne sait que gagner.
C'est vrai.
Campagne pour la Coupe du Monde avec la Belgique. Il a jamais perdu. C'est-à-dire que ce mec, en 4 campagnes pour des phases finales d'Euro de Coupe du Monde, il a jamais perdu.
Après, on peut te répondre qu'il est souvent armé quand même.
Alors, il est souvent armé. Surtout, le problème, il est pas là. Hier, Bruno Fernandes, en conf de presse, a été lancé là-dessus. On lui a dit, vous rendez compte, c'est historique. Le Portugal peut faire un 10 sur 10. Il dit, ouais, non, mais c'est génial. Nous, c'est l'objectif. Mais il dit, le truc, c'est que l'Euro arrive. On est qualifié. On est assuré d'être tête de série. C'est les seuls, d'ailleurs, avec les Français, les Allemands, pour l'instant, qui le savent déjà. Et l'Euro va débuter, on repart à zéro. Hein. Donc être le champion du monde des qualifications, c'est bien, mais ça sert à rien. Donc le plus important, ça va être l'Euro, c'est pas les qualifs. Et c'est ce qui avait été reproché à Martinez d'ailleurs en Belgique. Hein. C'est très fort en phase de qualif et de manquer d'audace dans les phases.
Et
finales.
La preuve en Coupe du Monde, hein, parce qu'ils sont même pas sortis des poules. Hein. Ils avaient été devancés par le Maroc et la Croatie. On t'a convoqué, Nico, pour parler du cas Cristiano Ronaldo, joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite, mais toujours cadre et patron de la sélection. 10 buts dans ses qualifications, souvent titulaire, souvent présent en tout cas aux côtés de João Félix ou de Leao. On se pose même pas la question au Portugal, c'est ce que tu me disais. Même s'il joue en Arabie Saoudite, Ronaldo est toujours un patron de cette sélection.
Si, franchement, à la Coupe du Monde, quand Fernando Santos, qui avait remporté l'Euro 2016, l'avait mis remplaçant contre la Suisse, où ils avaient mis une valse, qu'il avait été remplaçant face au Maroc, où là en revanche, c'est pas eux, c'est eux qui se sont fait danser.
À la Coupe du Monde, il y avait
beaucoup de débats suite à ça. Est-ce que Ronaldo doit continuer? Il doit y avoir un nouveau souffle. Et c'est vrai que en allant chercher un sélectionneur étranger pour la première fois depuis Scolari dans les années 2000, on se disait ils vont prendre peut-être un mec un peu plus objectif, qui aura moins d'emprise émotionnelle,
moins perturbé par l'environnement.
Peut-être. Et finalement, Martinez fait du Martinez. Les Belges savent de quoi je veux parler, notamment avec Hazard, toute proportion gardée, mais il fait de la politique. Donc au final, il a discuté avec Ronaldo. Il se trouve que Ronaldo s'est remis la tête à l'endroit à Al Nassr en Arabie Saoudite. Il en est à 27 buts en 27 matchs club sélection confondu depuis le début de la saison. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que ok, tu te passes de Cristiano Ronaldo, qui est aujourd'hui co-meilleur buteur des qualifs avec Lukaku.
Ouais.
Ronaldo n'a jamais été meilleur buteur d'une phase de qualification pour un Euro. Il en est à 10 buts, tout comme Lukaku. Il va peut-être en claquer d'autres ce soir face à l'Islande. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, on peut ouvrir le débat. Ok, Ronaldo joue pas alors qu'il est performant. Mais si Ronaldo joue pas, tu mets qui devant? T'as qui comme attaquant performant au Portugal à son poste aujourd'hui?
Bah alors après, c'est ça. Gonçalo
Ramos.
Ça dépend les présents, mais ouais.
Non, mais Gonçalo Ramos, il est performant.
Ouais. Pas vraiment, non. Bah, en club en tout cas pas vraiment.
Raphaël Lien, pour moi c'est pas le même profil. Il commence à être titulaire en sélection, mais c'est plus un joueur de couloir. João Félix, il est en train de recommencer à jouer avec le Barça, mais c'est pas un buteur non plus. Diogo Jota, il a été longuement blessé, il commence à revenir de blessure. André Silva, il a disparu des radars.
Bernardo
joue quasiment 8 aujourd'hui en sélection. C'est un électron libre, mais c'est pas un buteur non plus. Donc ce débat a existé et continue d'exister. Il a 38 ans, Ronaldo, faudra penser au lendemain, mais il se trouve que là, bah tu étais dans une phase de qualif auquel les adversaires, tu le disais tout à l'heure, sont peut-être pas dinguissimes, mais c'est le co-meilleur buteur aujourd'hui des phases de qualif et ça donne raison finalement à Roberto Martinez.
Roland.
Mais les amis, soyons d'accord sur une chose, écartons bien les deux situations pour Ronaldo. Il y a le Ronaldo joueur et la présence de Ronaldo. C'est pas d'aujourd'hui, on s'en est aperçu quand le Portugal gagne l'Euro que nous organisons. Bah, je crois que dans la poule, c'était très moyen, Ronaldo ou pas Ronaldo.
En troisième de poule.
Après, nous avons cette finale avec Ronaldo qui se blesse.
Lui, il a été tout sauf moyen en phase de poule de la Ligue.
C'est lui qui les sauve. Mais après, malgré ce, sa présence, elle est très importante aussi, parce qu'il sort à la 10e minute et ça devient un sélectionneur adjoint ou un entraîneur en train de replacer.
Le personnage Ronaldo dépasse le simple cadre du joueur de foot, quoi.
Mais même aujourd'hui, évidemment, on va le trouver un petit peu moins bon, ce qui est tout à fait normal. Mais sa présence, elle est toujours aussi importante. Une équipe du Portugal, sans la présence de Ronaldo pour aller à l'Euro, c'est une équipe du Portugal, pour moi, moins bonne.
Tiens, je vous
qui joue
juste...
après, moitié des minutes, moitié des matchs, ça, ça c'est autre chose.
Mais ça, il faut qu'il l'accepte. Ça, c'est un autre débat.
Juste cette info qui est confirmée, on vous confirme une info RMC Sport, c'est officiel désormais. Bruno Genesio quitte le Stade Rennais d'un commun accord. Donc ça peut être important, les mots ont un sens. On se demandait comment ça allait se passer, parce qu'il était en contrat jusqu'en juin 2025. Remplacé officiellement par Julien Stéphan. Donc on félicite la cellule foot d'RMC Sport qui a été précurseur sur ce dossier, Fabrice Hawkins notamment. Donc les infos sont confirmées. Au revoir Bruno Genesio, arrivée de Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais. 16h36 sur RMC, on parle du Portugal.
Non, 32-16, on en parlera ce soir dans la
soirée. Eh oui, dans la soirée, ce sera le cas, effectivement. À partir de 23h avec Nico Villas. Roland, est-ce qu'une situation pareille est envisageable en équipe de France? Est-ce qu'un joueur qui évolue en Arabie Saoudite peut, d'après toi, être appelé en équipe de France? La question a souvent été posée à Didier Deschamps avec un joueur comme N'Golo Kanté. Est-ce que tu y crois à 7 mois de l'Euro?
C'est-à-dire, ça dépend quel joueur. À un certain moment, il y a eu une offre quand Mbappé, il était en désaccord avec, avec son club. Il y a eu une offre de l'Arabie Saoudite. Si Mbappé avait accepté cette offre-là et que tu me posais la question, je te dirais, ben oui, je prends Mbappé, même si on peut penser qu'en Arabie Saoudite, le niveau est moins bon.
Imaginons que Kanté revient à son meilleur niveau et qu'au milieu de terrain, on ait des problèmes. Est-ce que tu penses que c'est envisageable de le voir revenir en équipe de France?
Non. Je me l'imagine pas. Avec tout ce que j'ai pu lire, j'ai plutôt l'impression qu'il s'est exilé avec des soucis personnels, des soucis familiaux. Et puis bon, dans ce secteur-là, on a quand même pas mal de joueurs, pas mal de bons joueurs. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'on peut récupérer Pogba en équipe de France? Mais je te dirais non. Il y a des choses qui sont pour moi impossibles. Et puis, on ne peut pas changer l'importance de certaines choses.
Hein. Voilà. Pour revenir au Portugal, Nico, là, il y a un match à disputer ce soir face à l'Islande pour vraiment conclure de manière parfaite cette campagne de qualification. Est-ce que ce Portugal a tout de même des points faibles? Comment ça se passe dans le jeu? Est-ce qu'il y a des secteurs à améliorer? Défensivement, est-ce que c'est si fort que ça?
Bah, défensivement, ça l'est, oui. Après, il y a effectivement l'adversité qui est là. C'est une équipe qui est solide. On le disait, ils ont encaissé 2 buts pour l'instant en phase de qualif. Après, il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Comme
ça joue à 3 derrière parfois.
Hein. Ouais, ça joue à 3 derrière. Il a même tenté une dinguerie contre le Liechtenstein. Là, ils ont fait que 2-0 parce qu'ils avaient eu la plus large victoire de leur histoire face au Luxembourg, le 9-0.
Ah, j'ai l'affiche du match. Il y a que des attaquants.
Ouais. Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'il a joué. Il a joué.
C'est incroyable. Non,
ce qui est fou, c'est qu'il joue à 3 derrière. Il y avait Ruben Neves en défense centrale.
Ouais.
Donc il a joué avec 2 défenseurs finalement.
Ouais.
Puisque les latéraux sont hyper offensifs. Et finalement, il y a eu que 2-0. C'était un peu brouillon. Il a tenté un truc. Il l'a expliqué après le match en disant, on savait que le Liechtenstein allait défendre et on a voulu tenter autre chose. Et finalement, le Liechtenstein a été plutôt vaillant. Ils ont été, ils ont résisté. Bon, après, c'est les circonstances du match qui font que. Mais juste pour revenir à ta question en lien avec les gens en Arabie Saoudite.
Ouais.
Au Portugal, la question s'est forcément posée au moment où Ronaldo est parti à Al-Nassr. Alors, il sortait d'une Coupe du Monde où il était plus titulaire aux yeux de Santos. Mm. Avec un nouveau sélectionneur, on savait pas ce qu'il allait faire avec Ronaldo. Il a 38 ans, quand même, Cristiano Ronaldo, parce que tu parlais de 2016.
Il aura 39 à l'Euro.
En 2016, il avait quand même 7 ans de moins.
Et il en aura 39.
Voilà. Ouais. Lui a toujours dit qu'il voulait aller à l'Euro, etc., où il aura justement 39 ans. Et Ronaldo a été finalement la tête de gondole et celui qui a fait l'appel d'air à toutes les autres stars qui sont arrivées en Arabie Saoudite. Mais il y a d'autres joueurs du Portugal qui sont venus derrière. Il y a Ruben Neves, il y a Otavio, qui sont aujourd'hui des joueurs qui font vraiment partie des choix de Roberto Martinez et qui sont peut-être pas des joueurs, on va dire, titulaires indiscutables, mais qui font partie de ce groupe. Alors, Roberto Martinez, et moi, c'est ça que je le reproche un peu, c'est que Roberto Martinez, c'est un excellent communicant. Mais il communique trop bien. C'est-à-dire qu'il est trop politique dans sa façon de faire. Il sait pas trancher.
Ouais.
Tu lui poses une question très anglais, très tranchée. Il va te faire une réponse très politicienne. Tout est toujours tiède.
Ça peut poser problème, ouais.
Non, mais c'est surtout qu'il te dit, nous, on supervise 90 joueurs. On a une pré-liste qui est établie. Et au final, on a des joueurs qui sont blessés. Et quand un mec se pète et il a un groupe de 23, il en appelle aucun pour le remplacer.
Ouais.
Donc il arrête pas de te dire, le Portugal est un groupe ouvert.
Peut-être que le réservoir n'est pas si grand pour lui, quoi.
Non, mais si, il l'est. Mais, enfin,
il a pas envie d'ouvrir la sélection à 10 joueurs.
Il faut mériter sa place. Et ça, en revanche, ça avait fait beaucoup débat au début de la saison.
Mmh.
Cancelo et Jean-Félix, qui venaient de signer au Barça,
ouais,
comptaient 0 minute dans leurs jambes. Et au final, Martinez les convoque et les met titulaires. Et pendant ce temps-là, t'as des mecs qui sont ultra performants. Je pense à Pedro Gonçalves au Sporting notamment. Je pense à Nuno Santos au Sporting notamment, qui sont jamais convoqués alors qu'ils sont très très bons avec le Sporting.
Mmh.
Le Sporting s'en est ému. Les joueurs eux-mêmes du Sporting s'en sont émus. Et Roberto Martinez, sa réponse a été de dire « Ah, mais le groupe est ouvert. » Sauf qu'au moment où il a des joueurs qui se blessent, il ne les appelle pas, ces joueurs performants. Donc c'est vrai qu'il y a... Okay. Bon, alors après, attention, hein, le mec gagne, il a des stats historiques.
C'est qu'il est difficilement attaquable.
Moi, je te dis, c'est là où je mets un bémol. Moi, comme les Belges, et je sais ce qu'il a fait avec la Belgique, moi, j'attends de voir ce qu'il va donner les phases finales. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les qualifs. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire avec l'Euro, où il a quand même une génération qui est assez intéressante.
Et on a hâte d'y être. Merci, Nico. On se retrouve à 23h. L'after ce soir, 23h minuit. On parlera notamment du Stade Rennais. On vous l'a dit. Bruno Genesio qui quitte Rennes officiellement, qui quitte d'ailleurs le club d'un commun accord. Il est remplacé par Julien Stéphan. Roland, tu restes avec moi. On accueille un invité dans un instant, Loïs Openda, attaquant de la Belgique, ancien buteur du RC Lens. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.
Benoît Boutron.
16h45 sur RMC, cette spéciale Euro 2024 jusqu'à 17h avec Roland Courbis. Flora Moussi prendra le relais pour l'Intégral Sport, la présentation notamment de la finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Je vous précise les informations concernant le Stade Rennais, c'est officiel désormais, départ de Bruno Genesio d'un commun accord, arrivée de Julien Stéphan, les infos signées Fabrice Hawkins pour aller plus loin. Après Genesio, Florian Maurice et Olivier Cloarec, le président exécutif, pourraient eux aussi s'en aller. L'information, c'est qu'en fait, Julien Stéphan a été choisi directement par l'actionnaire du Stade Rennais, évidemment François Pinault. Donc c'est lui qui a fait le choix Stéphan. Ça fragilise les positions de Florian Maurice et d'Olivier Cloarec, qui pourraient eux aussi s'en aller. C'est une révolution à Rennes, là, coach Courbis. Hein.
Ouais, n'exagérons pas.
Il y a
tout simplement une période difficile. Et bon, je pense que c'est pas important de changer un entraîneur ou un directeur sportif. Ce qui serait important et catastrophique pour Rennes, c'est si on changeait François Pinault.
Oui, c'est sûr. Mais quand même, sur une trêve internationale, tu perds ton directeur sportif et ton entraîneur, avec pas mal de mouvements.
Mais je crois que dans un premier temps, ça devait être l'entraîneur comme on a l'habitude en football. Mais bon, quand tu formes un duo avec ton directeur sportif, il peut y avoir les deux qui se sont changés. Je trouve rien d'extraordinaire.
16h46 sur RMC. Nouvel invité dans l'Intégral Foot spécial Euro 2024. Loïs Openda, attaquant de la Belgique, en direct avec nous. Salut Loïs.
Salut, bonjour.
Bon, comment ça va, Loïs? On rappelle que la Belgique est déjà qualifiée pour l'Euro. Il y a une première place à valider cet après-midi à 18h contre l'Azerbaïdjan. Ça va, tout va bien en sélection belge?
Bah, tout d'abord, ça va très bien pour moi. Et bien sûr, on est qualifié. Et maintenant, on a un match à jouer contre l'Azerbaïdjan qui va être très très important pour nous, pour être premier au classement et pour potentiellement être dans le pot 1, quoi.
Vous allez évidemment partir archi favori face à l'Azerbaïdjan, hein, qui est une petite nation, une petite équipe de votre groupe. On rappelle votre parcours, Loïs, depuis la fin de la Coupe du Monde. Vous êtes invaincu depuis la nomination de Domenico Tedesco. 7 victoires et 2 nuls en 9 matchs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de confiance dans votre groupe ?
Mais d'abord, il y a énormément de confiance, forcément. Depuis la fin de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, on est invaincu. Après, voilà, c'est un travail qu'on a pu construire avec la nouvelle génération et l'ancienne génération. Donc forcément, tout le monde est concentré, tout le monde a envie de se concentrer pour gagner les matchs, pour être qualifié pour l'Euro l'année prochaine. Et on sait que ça va être très très important pour nous, forcément.
Et justement, tu en parlais, il y a un renouvellement de génération. On peut rappeler la fin de carrière d'Eden Hazard, les blessures de Thibaut Courtois, de Kevin De Bruyne, qui n'est pas présent sur ce rassemblement. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, tu en fais partie, mais il y en a d'autres, comme Bakayoko, qu'on a vu justement en Ligue des Champions avec le PSV Eindhoven. Ça veut dire qu'il y a un gros réservoir quand même en Belgique. Vous avez encore beaucoup d'armes, notamment offensives, malgré le départ de plusieurs stars, Loïs.
Non, bien sûr, avec la retraite d'Eden Hazard, ça nous a un peu touché forcément, mais bon, maintenant, on doit se concentrer sur le futur et sur les joueurs qu'on peut apporter ici en équipe nationale pour pouvoir aussi faire la même chose qu'Eden. On a Thibaut et Kevin qui sont blessés, mais ils vont bientôt se rétablir pour être à nos côtés très bientôt et forcément avec les nouvelles forces qu'on a pu amener en équipe nationale. Ça nous donne quelque chose en plus avec une nouvelle génération aussi qu'on commence à découvrir et je pense que c'est un bon mix entre l'ancienne et la nouvelle génération.
Ouais. Est-ce qu'il y a une remise en question chez vous après la Coupe du Monde? On rappelle ce qui s'est passé pour vous n'êtes pas sorti des poules, hein, le Maroc a terminé devant vous tout comme la Croatie. Est-ce que ça a été une claque reçue parce que la Belgique faisait de bons résultats? Est-ce que du coup vous avez tout remis à plat? Est-ce que vous vous êtes dit les choses comme on dit?
Ben, c'est sûr que cette élimination en Coupe du Monde, ça ne nous a pas plu. À personne ici. Je pense qu'on avait le noyau pour faire une très très belle Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc maintenant, voilà, il faut se ressaisir. Il fallait se ressaisir forcément pour regarder tout droit et pour aller montrer un autre visage pour l'Euro qui viendra l'année prochaine. Donc forcément, cet Euro-là, on essaiera de faire du mieux que possible, en tout cas mieux que la Coupe du Monde.
L'intégrale foot spéciale Euro 2024 sur RMC. On lance l'Euro cet après-midi. On profite de cette trêve internationale. On est en direct avec Loïs Openda, l'attaquant de la Belgique, ancien attaquant du Racing Club de Lens. On va en dire un mot dans un instant. Mais question toute simple, Loïs, tu es belge. Vous avez une grosse équipe, une grosse nation. Vous êtes très bien classé au classement FIFA. Est-ce que tu considères la Belgique comme l'une des favorites pour cet Euro 2024 l'année prochaine?
Ben forcément, on est une grande nation, on est la Belgique, surtout avec ce qu'on a montré les années passées. On a quand même été pas mal de temps premier au classement et je pense qu'on le méritait. Donc voilà, je pense qu'on peut partir aussi comme une des équipes favorites. On sera pas la seule, mais il y en aura plusieurs. Mais on peut dire que la Belgique pourra faire quelque chose de bien dans cet Euro, forcément.
Est-ce que tu peux nous parler de toi? Parce qu'on t'a découvert en France, on t'a adoré la saison dernière avec le Racing Club de Lens. Tu as aidé Lens à retrouver la Ligue des Champions et à terminer deuxième de Ligue 1. Bah, comment tu te sens? Gros début de saison à Leipzig, hein, 9 buts et 2 passes en 11 matchs. Tout va bien pour toi en club, en tout cas pour l'instant?
Ouais, bah, pour l'instant, je me sens très très bien. Je marque. On fait des bonnes prestations avec mon équipe. Et voilà, pour l'instant, tout est beau et j'espère que ça va continuer. Et forcément, j'oublie pas aussi mon passage à Lens l'année passée. On avait fait une très très belle saison tous ensemble, pas que moi forcément. On avait été chercher cette qualification en Champions League vraiment tous ensemble du début jusqu'à la dernière journée. Et on l'a mérité. En tout cas, je suis content d'avoir pu jouer aussi à Lens. Et bon, maintenant, voilà, il faut penser au futur. Maintenant, je suis à Leipzig et je me plais vraiment beaucoup.
À titre personnel et en sélection, tu es encore un jeune joueur et tu as devant toi ou à côté de toi des joueurs de renom, Romelu Lukaku notamment. Ça veut dire que c'est un peu difficile de grappiller du temps de jeu. Tu n'as toujours pas marqué depuis que Domenico Tedesco a été nommé sélectionneur. Est-ce que ça te trotte dans la tête? Est-ce que ça t'embête? Ou est-ce que tu te dis que ça va venir, notamment peut-être ce soir à 18h contre l'Azerbaïdjan?
Non, il n'y a rien qui se passe de mauvais dans ma tête. Vous savez, ça arrive. Hein. J'ai déjà eu des périodes où je ne marquais pas. Après, ici, forcément, l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose qu'en club. Ici, il y a Romelu qui est là. Et puis, voilà, moi, je suis derrière avec Michi aussi qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Mon heure viendra, bien sûr. J'ai confiance. Et moi, je travaille en club et je travaille aussi ici en équipe nationale pour pouvoir me concentrer sur les marques et sur les matchs, pardon. Et je ne me mets pas de pression forcément pour OK, je dois marquer très rapidement sous l'ère de Tedesco. Non, je dois vraiment penser à pouvoir aider l'équipe à gagner les matchs pour aller le plus loin, que ce soit en qualification ou à l'Euro. Et puis, ils viendront tout seuls, forcément.
Il y a un débat qui marche bien, Loïs, en Belgique. C'est de se poser la question de savoir si vous pourriez être associé, justement, Loïs Openda, Romelu Lukaku. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Est-ce que tu aimerais, justement, disputer des matchs avec lui? Le système est toujours le même en Belgique. Hein, il y a deux ailiers en avançante. Mais est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, avoir un peu de temps de jeu en association avec Lukaku?
Ben, c'est le coach qui décide de si on va être associé ou pas. Après, forcément, j'ai déjà joué une fois avec Romelu. Je pense que son profil et mon profil peuvent s'associer forcément parce que c'est un profil différent du mien. Donc, je pense que ça peut matcher, mais après, ce sera le coach qui verra quand est-ce qu'on pourra être associé, quand est-ce que j'aurai plus de minutes. C'est vraiment en fonction de ce que le coach doit décider et de comment aussi il voit les matchs. Peut-être qu'il y aura des matchs où il voit Romelu tout seul, peut-être qu'il y a des matchs où il le verra avec un deuxième attaquant ou avec un soutien du numéro 10. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis prêt à n'importe quel moment pour aider l'équipe à gagner les matchs.
Loïs, on parle de l'Euro 2024, nous on s'intéresse forcément à l'équipe de France. Est-ce que pour toi la France, tu m'as dit que la Belgique faisait partie des favoris, mais est-ce que la France c'est la grande favorite pour toi de cet Euro 2024?
Ben, la France, c'est une très, très grande nation. On l'a vu dans les Euros passés, dans les Coupes du Monde aussi passées. Donc, c'est une équipe qui est très, très favorite, forcément, avec aussi une autre grande nation qui est l'Angleterre, qui est très, très fort. Mais comme vous l'avez dit, c'est la France. On connaît très bien les qualités des Français. Donc, forcément, ils vont partir aussi avec un grand pourcentage d'être favori pour cet Euro-là.
Bon, parle-nous pour terminer, Loïs, de tes liens avec le Racing Club de Lens. Est-ce que tu suis leur parcours cette saison? Est-ce que tu regardes leurs matchs de Ligue des Champions? Est-ce que tu gardes beaucoup de contacts dans le vestiaire lensois?
Non, bien sûr, je suis toujours le RC Lens. J'ai toujours la petite cloche qui est allumée, donc pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder les matchs. Mais en tout cas, je les suis, que ce soit en championnat ou aussi en Ligue des Champions, vu qu'on ne joue pas souvent à la même heure, ben, je regarde beaucoup leurs matchs. Et franchement, je leur donne beaucoup de soutien, de beaucoup de, on va dire, beaucoup de chance et beaucoup de force pour pouvoir aller le plus loin en Champions League, parce qu'ils le méritent beaucoup, et surtout revenir le plus près possible des places qu'ils doivent occuper, quoi, parce que je sais qu'ils n'ont pas eu vraiment un début de saison très facile. Ça a été un peu compliqué, mais bon, je pense que voilà, c'est le football là pour l'instant. Ces derniers matchs, ils sont bien remontés et voilà, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. En tout cas, je les suis toujours.
Tu sais que tu manques beaucoup aux supporters lensois. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer?
Ouais, c'est vrai que je sais que je manque beaucoup aux supporters. Je le vois avec les réseaux, tout ça. Après, je sais que peut-être je suis parti. Ils voulaient pas que je parte. Je suis parti après un an. C'est vrai que y en a d'autres qui voulaient que je reste. Et bon, je pense que c'est le foot, c'était une étape que je devais prendre, mais c'est pas pour ça que je ne garde plus d'amour pour les supporters ou les joueurs de l'équipe avec qui j'ai toujours contact ou le club. C'est un club avec qui j'ai passé une année, mais une année que j'oublierai pas, et ça a été vraiment un très très bon moment qui restera toujours avec moi forcément.
Merci Loïs d'avoir été avec nous. On te souhaite un bon match contre l'Azerbaïdjan. On espère que ça y est, tu vas débloquer le compteur en sélection en 2023. Et puis on espère surtout te voir performant à l'Euro, parce qu'on veut une grande équipe belge pour un Euro magnifique. Merci Loïs.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
16h56 sur RMC. La fraîcheur de Loïs Openda, qu'on a adoré à Lens, Roland.
C'est vrai que bon, évidemment, on a le souvenir de lui et de Fofana. Donc sur la saison dernière, ceux qui ont marqué en plus du collectif, mais on l'écoutait très attentivement. C'est vrai qu'un duo avec Lukaku,
ça serait dingue.
Peut-être pas pendant tout le match, mais la moitié ou une partie du match, ou terminer un match avec des centres et eux présents dans la surface,
c'est dur à gérer pour
ce serait pas un cadeau pour les adversaires.
Merci Roland d'avoir été avec moi.
Salut.
16h56, dans un instant, Flora Moussi prend le relais, l'intégral sport, avec un retour sur un beau souvenir. France-Ukraine 2013, Mamadou Sakho qui nous permet d'aller justement disputer la Coupe du Monde. Et puis on présentera également la finale du Masters qui va opposer Novak Djokovic à Yannick Sinner. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.
RMC, Intégral Foot, spécial Euro 2024.